Bonsoir à tous, c'est la Oussa Grade qui débarque, vous écoutez La Grosse Radio, il est tout juste 20h.
La Grosse Radio.
La Grosse Radio.
Radio Rock et alternative, La Grosse Radio. Le mardi soir, dès 20h, tout le métal est sur La Grosse Radio.
La Oussa Grade avec le Grenours. Le mardi soir, dès 20h, c'est La Oussa Grade avec Arnaud Nours.
La Grosse Radio avec Arnaud Nours.
Salut à tous, une fois n'est pas coutume, nous ne recevons pas de groupe cette semaine, mais c'est pour la bonne cause puisque nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Bénard, un universitaire, docteur en histoire et chercheur associé au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines. Qui a eu cette idée folle, me direz-vous, mais qui réchauffera le cœur de tous les métalleux que nous sommes, à savoir consacrer une thèse à la culture hard rock, une forme simplifiée d'ailleurs, est parue aux éditions Dilecta. Qui dit thèse dit donc recherche et axe de réflexion poussée sur la question de quoi sortir des lieux communs quand il ne s'agit pas d'inepties pure et simple, auquel l'inconscient collectif, avec l'appui coupable des abrutissants médias de masse, cantonne ce genre musical majeur, et je pèse mes mots, puisqu'il est présent partout et en tout point de la planète, et cela depuis près de 40 années. De ses références culturelles à ses relations avec le corps social, en passant par sa place dans les médias, c'est bel et bien une vraie culture que nous allons évoquer en profondeur ce soir avec Nicolas. Illustration musicale à l'appui, bien sûr. Vos questions seront bien entendu les bienvenues pendant le direct sur le chat. Vous attend June Melon. Et puis nous aurons également le plaisir de vous faire partager une exclusivité en fin d'émission, juste avant de repartir sur le comics metal, à savoir un extrait du prochain album de Fairyland, n'est-ce pas Julien?
Ouais, ça c'est la très très grosse exclu, surtout qu'ils sortent pas avant 2009.
Voilà, donc merci à Phil Jordana. Merci. Qui est déjà présent sur le chat en compagnie de d'autres personnes qu'on va saluer tout de suite.
Et oui, il y a déjà du monde sur le chat alors que ça réverbe un peu, c'est moi là.
Bah je sais pas, vas-y cause.
J'ai l'impression, voilà, c'est un petit peu robot. Il y a donc Arnaud Nours, c'est toi donc, Iscaria, Apophis, qui est là ce soir, Azibast, Ardlora, Laurence, Le Gros Virus, Lille Hardcore, Manstein77, il est là, donc il y a Yingui sur le chat, Phil Jordana, Sand et Docker.
Bien, et donc si vous voulez rejoindre tout ce joyeux petit monde et poser des questions sur la culture métal à Nicolas Bénard, présent donc ce soir dans le studio, il vous suffit pour ça de vous rendre en page d'accueil du site de La Grosse Radio, www.lagrosseradio.com. Vous arrivez donc en page d'accueil du site, vous cliquez sur communauté, apparaît alors un déroulant, vous cliquez sur chat, vous entrez votre pseudo et vous rejoignez toutes les personnes que Julien vient de vous mentionner.
Ouais.
Simplement. Avec moi ce soir également, dans le rôle du Candide, je souhaite dire bonsoir à un personnage bien connu des adeptes du forum de La Grosse Radio, monsieur Elix. Bonsoir.
Bonsoir à tous, les gros, les grosses, je vous aime.
Bien, et puis l'habitué de La Oussa Grade, sans qui cette émission ne serait jamais tout à fait la même. Bonsoir, SM.
Et salut à tous.
Tu nous as manqué pendant 2 semaines.
Et ouais, mais vous aussi vous m'avez manqué.
Et donc il est de retour ce soir. Et donc maintenant, bonsoir à notre invité de la soirée, cher docteur.
Bonsoir à tous et merci de m'inviter.
Ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc je te laisse te présenter, peut-être ton parcours universitaire d'abord, et puis également après on parlera un peu du pourquoi tu as choisi de consacrer une thèse à cette culture hard rock.
Bah, j'ai commencé par un parcours, on va dire, un cursus universitaire assez classique en histoire. Donc voilà, on étudie toutes les périodes. En fait, j'ai arrêté mes études après le DEA, donc un bac plus 5. J'avais travaillé en maîtrise et en DEA sur un sujet tout à fait différent qui était la presse de langue anglaise en France, 19e jusqu'au début 20e. Donc j'ai arrêté mes études pour travailler dans la presse, voilà, j'ai travaillé dans la télévision. Et puis au fur et à mesure de cette expérience, je me suis un peu lassé et j'ai rencontré par le plus grand des hasards, lors d'un plateau télé, mon ancien directeur de recherche qui m'a dit: qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit: ben excusez-moi, je me fais un peu chier, voilà. Il dit: ah, mais qu'est-ce que vous aimez dans la vie? J'ai dit: bah le métal, l'hard rock, voilà, c'est ma passion. Il dit: ah, mais c'est génial, faites une thèse. Voilà, donc c'est parti de cette boutade. Ensuite on a discuté évidemment plus sérieusement et voir comment on pouvait mener ce genre d'études, sachant qu'il m'a prévenu dès le départ que ça serait pas évident, d'une part parce que c'est une culture très contemporaine, hein, même si ça existe depuis 35-40 ans, et d'autre part parce que les milieux universitaires sont pas toujours très peuvent être un peu réticents par rapport à ce genre d'études. J'imagine. Mais lui était partisan de développer justement l'étude de phénomènes musicaux, notamment en France, parce que selon lui c'était intéressant, notamment notamment pour apprendre des choses un petit peu sur la façon dont les jeunes et en tout cas les éditeurs voient l'évolution de leur pays, hein, du pays dans lequel ils vivent. Voilà, donc je me suis lancé là-dedans. Ça a duré 4 ans et demi en tout et pour tout. Et j'ai soutenu cette thèse en octobre 2007. Donc ça fait un petit peu moins d'un an.
Et donc il y a une version simplifiée de cette thèse qui a été éditée aux éditions Dilecta. C'était l'année dernière.
C'est sorti en mai 2008.
Ah oui, ouais, 2008, c'était. Ouais, c'est vrai, on a 2008 encore.
En fait, j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai trouvé un éditeur avant d'avoir soutenu la thèse.
Ah ouais.
Voilà, il pilotait sur internet, il allait un peu sur les sites des universités pour voir quel sujet était en cours de préparation. Il a pas mal craqué sur le mien parce qu'il est spécialisé sur l'histoire culturelle. Il m'a dit, voilà, le jour où tu as soutenu, on fait un bouquin ensemble. Donc dès que ma soutenance a été finie, je suis pas du tout parti en vacances, je me suis tout de suite lancé là-dedans. Sachant que lui, il voulait vraiment pas publier ma thèse en l'état, il voulait qu'on réécrive tout, qu'on produise quelque chose de tout à fait différent, d'un peu moins indigeste, voilà. De plus abordable. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois dessus, voilà, entre octobre et mars.
D'accord.
Et c'est sorti effectivement le 23 mai exactement.
Alors une question de Slash Nekit, une question qui a été posée sur le forum de la Houssagrat, qui te demande si ta thèse fait seulement référence à des ressentis personnels et des études à propos de la culture hard rock, ou est-ce qu'elle est aussi basée sur des questionnaires et interviews de personnes ayant participé à ce mouvement?
Non, il n'y a aucun ressenti personnel, c'est une étude universitaire, donc évidemment, ce que j'ai dit le jour de ma soutenance de thèse, c'est qu'on ne travaille pas sur le hard rock si on ne s'intéresse pas au phénomène, c'est évident.
Oui, forcément.
Je pense qu'à ce niveau-là des études, tous les chercheurs s'intéressent quelque part passionnément, je dirais, au sujet sur lequel ils travaillent. Donc non, il n'est pas question de ressenti, il est question d'étudier le hard rock comme n'importe quel sujet historique, hein, que ce soit un sujet sur le Moyen-Âge, sur la Grèce ou sur la Révolution française. On établit un corpus de sources et une bibliographie assez complète. Et une fois qu'on a établi ce corpus de sources, on travaille dessus d'une manière aussi bien quantitative que qualitative. On y reviendra peut-être plus tard. Et à l'issue de ces analyses, on construit un plan, une analyse, et on essaye d'aller un peu au-delà de la réflexion classique, on va dire, qu'on peut lire à droite, à gauche, que tu mentionnais dans ta présentation.
Et l'objectivité étant le maître mot, j'imagine, pour aborder cette question.
Absolument, c'est un travail scientifique, donc on doit se détacher de l'objet, même si, encore une fois, il est très passionnel, évidemment, et c'est des groupes que j'ai côtoyés, des artistes que j'ai rencontrés, des fans qui sont mes amis, et moi-même je suis fan, mais malgré tout, il faut se détacher de tout ça et essayer d'aborder chaque angle d'étude sous un angle tout à fait, comme si j'étudiais la civilisation grecque ou une période que je n'ai pas côtoyée.
D'accord. Et bien, pour histoire de planter un petit peu le décor et de rentrer un peu plus après dans l'univers de la culture hard rock, je vous propose de faire une première pause musicale en écoutant trois groupes qui sont peut-être à la base de ce mouvement. Après, c'est toujours un sujet à caution, hein. On en parle un peu hors antenne. Il y aura autant d'avis pour dire quels sont les pionniers du métal qu'il y a de personnes qui aiment le métal. En tout cas, on écoutera Black Sabbath tout à l'heure. Donc là, c'est mon avis à moi, hein. Black Sabbath, avec un extrait du premier album de Black Sabbath. C'était en 1970, à l'album éponyme. Hein. On écoutera Behind the Wall of Sleep. Juste après, AC/DC, qui est quand même un des groupes qui a popularisé ce mouvement au milieu des années 70, extrait donc du deuxième album de Black Sabbath, d'ACDC pardon, qui était donc High Voltage, sorti la même année que le premier d'ailleurs en 76. On écoutera It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll. Et puis on va commencer tout de suite avec Communication Breakdown, Led Zeppelin, extrait du premier album, c'était en 1969, et je crois que là en 69 on était vraiment au tout début de l'histoire. Allez, c'est parti. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. AC/DC, extrait du High Voltage 76, juste avant Black Sabbath, Behind the Wall of Sleep, extrait de l'album Black Sabbath de 1970, et puis Led Zeppelin avec Communication Breakdown, extrait du premier album de Led Zeppelin, c'était en 1969, histoire un petit peu de planter le décor de cette Houssagrat consacrée à la culture hard rock et à la thèse que lui a consacrée Nicolas Bénard, qui est notre invité de ce soir. Rebonsoir Nicolas.
Je suis toujours là.
Et on est là jusqu'à jusqu'à au moins 22h. Et si on déborde, ma foi, ce sera pas grave, parce que je pense qu'on va aborder des thèmes assez intéressants au cours de ces 2 heures. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des références culturelles du hard rock. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas parti pour faire une émission sur le hard rock en tant que musique, mais plus sur la culture, de tout ce qui va autour du hard rock, son imagerie, son imaginaire. C'est un mot que tu emploies assez souvent pour qualifier un des angles de ton travail. Mm-hmm. Donc les références culturelles du hard rock, elles prennent racine où ?
Oh là, alors il y en a des différences, des références culturelles. Moi, j'ai pas pu évidemment tout étudier, mais je me suis basé en fait sur 3 aspects qui me semblent intéressants. C'est les références culturelles qu'on trouve dans le heavy metal, d'une part,
ouais,
la musique heavy metal, dans le death metal, ouais, et dans le black metal.
D'accord.
Alors évidemment, les auditeurs qui ne connaissent pas ces styles auront peut-être du mal à visualiser. On va dire rapidement sur le heavy metal, en fait, je me suis penché sur les pochettes et les textes. J'ai étudié un petit peu les références. J'ai vu que les thèmes qui revenaient souvent, c'était des imaginaires à base, on va dire, peut-être de fantastique, fantasy, avec, ouais, l'image du dragon, ce genre d'image qui revenait de façon assez fréquente. Le death metal, c'est plus l'image de la mort, en fait, ouais, hein, une image de la mort.
Comme son nom l'indique.
Voilà, bon, c'est pas très compliqué. Black metal, c'est un peu plus compliqué, donc j'y reviendrai peut-être après. Alors, concernant le heavy metal, l'aigle, le dragon, qui sont des icônes, hein, enfin des images qui reviennent très souvent. En fait, on les trouve à différents moments de l'histoire. L'aigle, évidemment, je pense que tout le monde le sait, ça remonte à l'aigle romain. Mmh. Ensuite, on a l'aigle de Napoléon, l'aigle de l'Allemagne aujourd'hui encore.
Reich, hein,
il y a l'aigle, ouais, sur le drapeau
allemand. Symbole impérial, ouais,
bien sûr.
Qui est encore un symbole de l'Allemagne. Donc c'est pas un symbole très nouveau. Le dragon, quant à lui, ben on sait d'où il vient dans la littérature et la culture. C'est surtout la littérature fantastique, la littérature de fantasy, d'heroic fantasy. Mais on le retrouve. En fait, c'est une image qui vient du christianisme. Peu de gens le savent, mais le dragon fait partie de l'imaginaire chrétien. On le retrouve dans l'Ancien Testament, sauf que dans l'Ancien Testament, le dragon était un animal très très méchant, très dangereux, alors que dans le métal, on en a fait parfois, pas toujours, mais parfois un animal plutôt sympathique,
ouais,
finalement, qui représente une forme de force, le courage, peut-être aussi l'image d'un passé qu'on regrette, finalement, hein, un passé un peu idéalisé avec des mélanges de références moyenâgeuses ou avec un certain nombre de valeurs que les fans de heavy metal considèrent comme disparues de nos sociétés. Peut-être plus individualiste, plus axé sur la volonté d'écraser les autres. Voilà.
Une idée de puissance à l'image de la musique aussi, finalement.
Et aussi, absolument, un symbole de puissance. Le dragon étant dans le cinéma, dans la littérature, effectivement un animal destructeur. Donc ça, c'est le premier aspect, le heavy metal. Le death metal, donc la mort, bon, la mort, on va pas remonter non plus, je vais pas faire un cours d'histoire de l'art, ça va barber tout le monde, mais la mort, elle existe depuis très longtemps dans l'art. On la trouve dans la peinture, au Moyen-Âge.
T'as dire dans l'art, parce que
dans l'art, ouais,
existe depuis toujours, finalement.
La mort existe
dans l'art. Mais pas si loin que ça, en fait. On trouve, bon, des divinités de la mort, on les connaît, hein. Il y en a en Égypte, il y en a dans les sociétés précolombiennes, il y en a à Grèce, évidemment, ouais, Thanatos, à Rome. Donc c'est pas nouveau. Il y en a dans la peinture, l'art fantastique au XVIe siècle, avec, ouais, un peintre comme Hans Baldung, par exemple, qui développe cet imaginaire, qui représente la mort. Hein. On a des peintures très très violentes de la mort, décomposée, décharnée. Et ensuite, on le retrouve dans le death metal. Voilà. Bon, c'est pas très original non plus. Là, ce qu'il faut bien mentionner, c'est que dans les pochettes de death metal, la mort, elle est dessinée.
Oui.
C'est ce qui est important, je pense, c'est bien dire que c'est un dessin, contrairement à un film d'horreur par exemple qui va représenter la mort, même si on sait que c'est un film, on voit quand même du sang qui gicle, etc. Dans le métal, ça reste toujours dessiné, donc il y a un retrait quand même par rapport à cette image. Et bon, moi je suis pas psychologue, mais les psychologues disent que d'une manière générale, le fait de représenter la mort, c'est un moyen de l'exorciser aussi.
Tout à fait, ouais.
C'est un moyen d'exorciser les craintes qu'on a sur le monde dans lequel on vit. Un monde qui aujourd'hui ne répond plus à une réponse toute simple, c'est-à-dire qu'y a-t-il après la mort? Pendant des siècles et des siècles, c'était très simple, hein, la réponse était voilà, le paradis ou l'enfer, ce que nous apprenait la religion. Aujourd'hui, ouais, les jeunes, majoritairement, n'ont plus cette religiosité. Donc, ils ressentent sans doute le besoin d'exprimer dans la musique et dans la peinture, mais ça pourrait être le cas aussi dans le cinéma horrifique, dans la littérature horrifique, etc. Mmh. C'est pas propre au métal. Mais en tout cas, il faut pas y voir quelque chose de. Il faut pas y voir une apologie de la violence, de la mort ou je ne sais quoi.
Oui, ou une obsession morbide.
Absolument pas, absolument pas. Et troisième aspect, donc la plus long, c'est le black metal. Alors, le black metal, c'est un peu plus compliqué. Le black metal, il y a 2 aspects. Le black metal, on va dire, traditionnel, qui puise là dans un imaginaire un peu ésotérique à base de satanisme, mais alors attention, satanisme,
je ne vais
pas non plus faire un cours sur le satanisme, mais le satanisme est une forme de philosophie qu'on pourrait expliciter pendant des heures, mais sur laquelle je ne m'appuierai pas. Mais la plupart des groupes de black metal ne sont pas satanistes. Mmh. Il y en a quelques-uns, mais la plupart non. Ce qu'ils veulent d'abord faire, c'est prendre des symboles des symboles en fait chrétiens, parce que tous ces symboles sont des symboles chrétiens. L'image du diable, le diable a été inventé par le, par, enfin, inventé. Excusez-moi, je veux pas choquer les croyants, mais en tout cas, le diable fait partie de l'imaginaire chrétien. Et donc le black metal reprend des symboles chrétiens et les transforme, les manipule, voire les détériore, les humilie parfois aussi, ouais. L'image du Christ peut être humiliée. Donc ça c'est pareil, bon. Hein, c'est pas nouveau. Depuis longtemps, les artistes ont repris et manipulé ces symboles pour dénoncer finalement une forme d'oppression. Ce que les gens ressentent en tout cas comme une oppression du christianisme, notamment dans les sociétés nordiques où le black metal est apparu, en Norvège, en Suède, où le christianisme est très très fort et surtout le paganisme originel est aussi encore très fort et très vivace.
Un choc des cultures quelque
donc,
part.
Donc c'est un choc des cultures absolument, de la part de beaucoup de jeunes qui se réveillent dans les années 70-80 en disant on en a marre du christianisme, on veut retrouver nos sources, nos racines, les chrétiens sont venus chez nous, nous ont enlevé notre culture et on veut retrouver cette culture. Donc voilà, et en marge donc de ça il y a le paganisme qui est aussi associé au black metal, qui est donc la mise en valeur de traditions culturelles païennes. Donc ça peut être les symboles vikings, le marteau de Thor, les divinités païennes suédoises, norvégiennes, enfin nordiques ou finnoises ou germaniques. Donc c'est pareil, hein, c'est la même volonté de dire bah stop finalement au christianisme, on veut retrouver nos racines. Donc voilà, il faut voir aussi que tous ces pays-là et la France aussi a vu apparaître ces mouvements musicaux à une période des années 80-90 où la crise économique est très forte. Ouais. Il y a une grosse crise des valeurs, les gens sont un peu perdus, les jeunes sont un peu perdus, il y a beaucoup de chômage. Donc finalement, on essaye de se ressourcer dans ce qui nous est proche, ce qui nous est passionné, c'est la culture et surtout la culture ancienne, quoi, la ouais. culture très, très, très chrétienne, avant le christianisme.
D'accord. Une question de Slash Nikit posée sur le forum de la Houssagrate qui nous demande quel est le message véhiculé par le hard rock. Mais je dirais en préambule, est-ce que le hard rock véhicule un message déjà?
Alors c'est difficile à dire. Non, je crois qu'il n'y a pas un message. Je l'ai un peu décrit précédemment. J'ai décrit trois univers, mais il y en a bien d'autres évidemment. Je pense pas qu'il y ait un message. Au départ, il y a des groupes effectivement comme Black Sabbath, hein, qui ont un message quelque part, même s'il est un peu sous-jacent. Il a été mal perçu au départ, mais c'était un message assez politique, voilà. Plutôt à l'encontre de la guerre
du Vietnam aussi, à l'époque.
À la guerre du Vietnam, effectivement, ouais. C'était dans la fin des années 60, début des années 70. Donc là, il y avait un message politique, c'est vrai. Il y a eu un message politique chez Trust, par exemple, ouais. Un groupe français dans les années 80, qui était très marqué avec des chansons contre les institutions, contre la police, contre les prisons, etc. Mais d'une manière générale, non, je crois pas. Je crois que la plupart du temps, c'est un message plus universel, en fait. C'est ce que c'est à quoi j'ai abouti dans mon étude. C'est un message universel, global. Parfois, qui est un message même, qui va au-delà des frontières, finalement, qui peut séduire aussi bien un Chilien qu'un Thaïlandais. Même si parfois on a des éléments culturels dans la musique, mais le message est plus universel, je pense. C'est un message, je dirais pas libertaire, parce que libertaire ça fait penser un peu à la politique, ouais. Mais plutôt un message de liberté, c'est-à-dire de vivre sa vie en tant qu'individu, d'assumer ses choix, parfois de façon un peu violente, hein, c'est vrai. Parfois quand on est confronté à l'école, qu'on a des cheveux longs, qu'on est confronté à des profs qui nous rejettent, bon bah il faut parfois se faire un peu violence. Ouais. Donc je pense que c'est un message là aussi, et c'est un message violent, c'est dans la musique, puisque c'est une musique qui demande un apprentissage, qui demande une certaine.
Ouais, c'est vrai.
Il se demande de se poser un petit peu sur son fauteuil et d'écouter.
D'écouter,
hein.
Ouais.
Ça demande aussi, je pense, un travail culturel, parce que je pense qu'on peut pas. On aura du mal à apprécier le métal si on n'est pas soi-même musicien. Ça, c'est ce que j'ai conclu aussi de par mes études. La plupart des fans que j'ai interrogés m'ont dit qu'ils étaient eux-mêmes musiciens, en tout cas qu'ils essayaient de faire de la musique.
Ah, ça peut aussi arriver dans l'autre sens. C'est que ça, le fait d'écouter du métal donne aussi envie de devenir
de faire
musicien.
De la musique, ouais. Pour mieux l'appréhender, et je crois que c'est le phénomène musical au monde où les jeunes sont les plus investis. C'est-à-dire qu'ils font tous de la musique, ils ont quasiment tous un groupe. Ce sont d'énormes, énormes consommateurs de musique. Il faut voir qu'en France, un fan de métal achète 3 à 4 fois plus de disques qu'un jeune français moyen. Il va avoir 4 à 5, parfois 10 fois plus de concerts qu'un français moyen. Ce sont vraiment des fans de culture, avec un grand C.
Et de toute façon, ils font déjà l'effort d'aller vers la musique, parce que la musique ne vient pas à eux par les biais médiatiques, de toute façon.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Il faut être actif, effectivement, voilà, et non pas passif.
Ouais. Qu'est-ce qui me... Ah oui, alors le look. Il y a pas mal de questions qui sont tombées concernant le look des hard rockers. Alors d'où viennent les codes vestimentaires des hard rockers? C'est une question que nous pose Vince.
Il y en a beaucoup, des codes. On va commencer par les premiers codes, on va dire. Hein. C'est quand on regarde les groupes de hard rock dans les années, au début des années 70, ils sont à peu de choses près habillés comme les hippies. Black Sabbath sont habillés exactement pareil, hein, c'est des pantalons à pas d'Eve, des chemises à fleurs, c'est exactement la même chose, hein, les Zeppelin, Deep Purple, c'est pareil. Après, il y a une introduction d'un imaginaire plus sombre, qui apparaît avec le heavy metal, avec des groupes comme Judas Priest, qui introduisent plus, on va dire, des références qui viennent des bikers, hein. Ils ont pas inventé grand chose non plus. Après, il y a des ceintures de balles, tout ce genre d'attirail, qui peut sembler militariste, mais en fait, qui est plutôt anti-militariste, puisque le fait de porter ce genre de choses, en général, c'était plutôt un signe de manifestation contre la guerre. Voilà, on se réapproprie des symboles, au même titre que les punks, par exemple, portaient des croix gammées, justement pour dénoncer le nazisme et se réapproprier des symboles qu'ils jugeaient, finalement, un petit peu presque sacrés. Donc, on désacralise des symboles pour rejeter la guerre, le chômage, qui sévit à ce moment-là en Angleterre dans les années 70, par exemple, la crise économique, un peu plus tard dans les années 80 aussi. Voilà, donc c'est... Et bon, le black metal, c'est plus des symboles qui vont là puiser dans la culture gothique, avec un attirail très élaboré. Il y a vraiment après une recherche esthétique de plus en plus marquée.
Du maquillage,
du maquillage, effectivement. Alors que par exemple, le thrash metal, le death metal, c'est jean, basket, rangers et basta, c'est tout. Et après, on rentre sur scène et on joue. Mais avec la musique, avec la culture gothique, on introduit des éléments là esthétiques. Vraiment très esthétique.
Et au préalable, il y avait quand même eu dans les années 80 des groupes comme Twisted Sister ou comme Motley Crue qui eux laissaient carrément tomber le côté cuir et clou, comme le disait Sand sur le forum, pour se grimer un petit peu un côté androgyne.
On se féminise, ça c'est avec le glam metal, effectivement, au début des années 80 on se féminise. C'est pas nouveau non plus, ça existait un petit peu dans certains courants des années 70, mais effectivement c'est pareil, on prend des codes en fait et on les renverse. On dit après tout on fait du hard rock, mais on va s'habiller avec des pantalons roses, on va se permanenter et on trouve des pochettes de disques de Poison ou Motley Crue où finalement c'est plus vraiment si ce sont des hommes ou des femmes.
C'est clair.
Alors ça crée évidemment d'énormes guéguerres à l'époque, et encore aujourd'hui dans la scène métal, où on dit mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est lamentable. D'un côté il y a Judas Priest avec du cuir et des clous, de l'autre côté il y a Poison avec des maquillages et les ongles rouges, mais au final ça marche plutôt pas mal.
Et pourtant Vince Neil se fait plus de filles que Rob Halford, hein, c'est de notoriété publique, hein.
Oui, mais il faut voir aussi que le glam apparaît dans les débuts des années 80, début des années 80 aux États-Unis, en Californie, période d'énorme prospérité et surtout période de développement du clip vidéo. C'est la première fois que le clip vidéo apparaît,
donc l'image est bien importante.
On en profite à fond la caisse. Et c'est tous ces gars là ont été très 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 malins. Ils ont su utiliser l'image MTV. Et ils ont cartonné.
Bien, carrément. Des questions sur le chat peut-être, Jules Melon?
Il y a une question sur les styles, mais est-ce qu'on la pose maintenant? Parce que ça parle du futur du métal.
Pourquoi pas? Allez.
Question très intéressante de Bonobo. Vu qu'il a longuement étudié le métal hard rock passé et présent, comment voit-il le futur de ce style? Quelle évolution? Quelle nouvelle vague selon lui? Perso, j'ai l'impression que c'est le mélange des genres qui va émerger. Electro à la Pain, Sympho à la Y en a trop, Jazz à la Diablo Swing Orchestra, Prog, etc.
Alors bon, là il décrit des styles qui existent déjà, mais c'est vrai, on m'a posé la question il y a quelques jours et donc depuis j'ai le temps de réfléchir. Je suis évidemment pas Nostradamus, mais de ce qu'on voit sur l'évolution, le hard rock en fait c'est un style, le hard rock, le métal, hein, c'est un univers qui a puisé dans tous les univers musicaux qui existent, tous sans exception. Ça a commencé par la musique classique, ensuite il y a eu l'introduction des éléments qui ont été puisés dans le rock progressif, à la Yes, Genesis, Pink Floyd. Ensuite on a eu des éléments qui ont été puisés dans la musique électronique, dans le hip-hop avec le néo-métal, dans le jazz, etc. etc. Aujourd'hui, il y a des courants qui marchent beaucoup, c'est le mélange de musique ethnique et de métal, ce qu'on appelle le folk metal ou le métal ethnique. Hein, ça peut venir d'Israël, ça peut venir de Grèce, ça peut venir du Brésil. Alors moi, ce que je me dis qu'avec l'émergence de la Chine, de l'Inde et sans doute d'autres pays d'Afrique, peut-être l'Afrique du Sud, il est possible que ces pays-là nous fournissent dans les années qui viennent des groupes de métal locaux qui introduiront leurs propres caractéristiques musicales.
Ben, on a un bon exemple qu'on avait reçu ici, qui est le groupe Arcane, qui est un groupe qui vient du Maghreb,
qui met des influences d'Algérie, c'est ça. Et je pense que l'Afrique du Sud, pour l'Afrique, l'Inde, la Chine ou la Thaïlande par exemple, seront des pays qui, à mon avis, dans les 10 ou 15 prochaines années, auront des groupes majeurs avec des éléments de leur propre culture. Et ça marchera, j'en suis persuadé.
À l'image des pays scandinaves d'ailleurs, hein, qui sont mis à exploser dans les années 90, on va dire.
Le syncrétisme a toujours été l'un des chevaux de bataille dans le métal. C'est sans doute l'un des rares styles musicaux, effectivement, où là où on peut parler aussi, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de pillage, où finalement on ne serait restreint pas à la guitare, à la basse, à la batterie, mais on va chercher dans sa culture, une fois de plus, des instruments, un imaginaire plein de choses pour en faire une forme de culture qui reste originale.
Et c'est vrai qu'on est assez focalisé sur une vision très occidentale du métal aujourd'hui et que les scènes existent certainement partout dans le monde, mais qu'on ne les connaît pas simplement.
Ben c'est là où Internet a joué un rôle fondamental depuis une dizaine d'années, puisque des groupes comme Orphanland par exemple, qui est un groupe israélien qui mélange musique traditionnelle, on va dire israélienne, arabe.
Qui a été découverte en France par Lee Records, si
absolument, j'ai absolument. C'est un groupe qui sans doute n'aurait jamais pu percer sans Internet, parce que c'est vrai qu'Israël est un pays qui est quand même un peu délocalisé par rapport au reste de l'Europe, qui connaît la situation politique qu'on connaît. Ouais. Mais je pense qu'à l'avenir, grâce à Internet, on pourra voir émerger un groupe comme Mirat, par exemple, qui est un groupe tunisien qui a été signé sur un label français, qui est excellent aussi, qui mélange, qui va sans doute encore plus mélanger les sonorités tunisiennes et françaises. Donc je pense que voilà, il y a l'Amérique du Sud qui est aussi un marché énorme avec des pays qui sont pas encore tout à fait en voie de développement, je dirais, sur la scène musicale en tout cas, mais à part le Brésil peut-être et le Mexique, mais il y a aussi des sans doute un vivier de groupes là-bas qui seront amenés à exploser. On l'a vu avec Sepultura par exemple, avec Angra, qui ont marché en introduisant des éléments de leur propre culture, et les fans de métal en fait adorent ça.
Ils sont beaucoup plus ouverts qu'on peut le croire.
Absolument.
Et puisqu'on a évoqué les trois grands courants, heavy, death et black metal, je vous invite à écouter trois extraits de ces courants-là. Donc pour le death, je me suis fait un petit plaisir en écoutant du Obituary, ça rappelle ma jeunesse, Stéphane. Extrait du deuxième album, Cause of Death, c'était le deuxième album d'Obituary.
Ouais, absolument.
Sorti en 90 ou 91, je sais plus trop. Slowly We Rot, c'est 89, donc ça devait être l'année d'après, 90 ou 91. Ouais, pas bon, ça a peu d'importance.
Ça fait presque 20 ans.
On écoutera Body Bag avec une production de 1991.
c'était bien.
C'était d'autant mieux que ce qui passe après au niveau production, ça va être plutôt tranquille. Dark Throne avec un extrait du Transylvanian Hunger, album sorti en 94 et qui a fait polémique, notamment.
C'est du 4 pistes, ça.
C'est du 4 pistes. Il y a une polémique sur une petite phrase qui se figurait au dos de cet album, où il pensait que c'était du métal aryen, norvégien, black metal. Et je crois que c'est Peaceville qui a réussi, au moment de la réédition en 2001 de l'album, à changer cette phrase en True Norwegian Black Metal.
Il y avait une autre phrase, il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que dans l'édition promo de l'album, il y avait une phrase à l'adresse des journalistes qui disait, en gros, c'est un album qui est pas fait pour les juifs, en fait. Et ça a été très mal perçu. Non, mais ça a été très mal perçu à l'époque parce que ça a été traduit en anglais, alors qu'en norvégien, en fait, c'est une blague qui est admise par les juifs aussi, paraît-il, qui dit qu'en fait, Ça veut dire, si vous êtes un peu stupide, vous n'apprécierez pas ça. Donc c'était pas du tout antisémite. Ils se sont rattrapés comme ils pouvaient. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Attention, personne ne saura, il y a que qui le savent. Mais ils se sont rattrapés comme ils pouvaient. Mais bon, c'est effectivement, ça a fait une énorme polémique en Europe à l'époque. Et vu ce qui s'est passé après en Norvège, ça a pas arrangé les choses.
Et c'est vrai qu'après la sortie de cet album, ils se sont vraiment plus que raccrochés aux branches. Ils se sont mis à crier, vraiment à corps et à cri. Non, nous ne sommes pas des néo-nazis, nous ne sommes pas antisémites d'ailleurs. Ils ont évolué vers une orientation beaucoup plus punk que Steph.
Ouais, ce qui était prévisible. Je l'avais prévu avec quelques années.
Stradamus.
Il y a des ponts. Mis à part justement ce côté idéologique, musicalement, il y a des ponts, beaucoup de ponts entre le punk et le black metal. Au niveau du le côté brut de la musique et le côté on fait de la musique même si on sait pas jouer, c'est l'énergie qui prime.
Et le côté live en plus.
Live.
Oh bah là, ça me semble avoir été enregistré en live. Non, bah, oui, c'est vrai que ce groupe-là refusait de jouer en live. C'est le cas de beaucoup de groupes de black metal d'ailleurs.
Il fut un temps effectivement où jouer en live était prohibé, mais ils se sont rendu compte que vu que ça marchait pas mal et que ça pouvait leur apporter de l'argent en vendant quelques t-shirts, ils se sont mis à sillonner les routes mondiales. Mais pour revenir à Dark Throne, j'ai retrouvé des vieilles interviews de Dark Throne où les mecs disaient dès le début des années 90, nous on adore le punk, on est des punks dans l'âme, et voilà. C'était vraiment, mais bon, c'est un cas particulier après.
Et puis on va repartir avec du heavy metal bien classique, bien de chez nous, j'allais dire, non, c'est de chez nos amis anglais. Judas Priest avec un album qui avait mis tout le monde d'accord, qui était sorti en 1990, c'était le Painkiller. On va écouter Metal Meltdown. Metal Meltdown, comment on peut traduire ça, Jules Melon?
La fonte, si tu veux, du métal.
Et voilà, hein, la fonte du métal, c'est parti. On écoute Judas Priest, il est 20h40. Nicolas Bénard est notre invité et on parle de la culture hard rock ce soir. We'll be right back. Dark Throne, ouh que c'est vilain.
Ça pourrait être très bien pour, tu sais, pour une publicité pour les pastilles, pour la gorge, un truc comme ça. Ouais. Non mais il y a un côté épique qui est quand même sympa, puis il faut se remettre dans le contexte et c'est pas tout jeune quand même.
Non non, 94.
C'était super original.
C'était déjà 14 ans
à l'époque. Ah, c'était j'imagine... super mauvais mais c'était super original.
Le titre qu'on a écrit c'était Skald Aus Satan's Soul.
Ce qui veut dire
norvégien.
Alors, il doit parler des petites fleurs là, des petites fleurs de montagne.
Extrait de l'album Transylvanian Hunger de 94. Donc juste avant Obituary qui représentait le death metal en 1990-91, Cause of Death c'était le titre de l'album, Body Bag c'est le titre qu'on a écouté, et puis extrait du Painkiller, le Metal Meltdown de Judas Priest sorti en 91, excellent également. On va aborder dans un instant la place du métal dans les médias généralistes, mais avant de ça j'aimerais savoir s'il y a des questions sur le chat.
Des questions non, mais des morts, par exemple Malstein 77, il était ah, arrêtez-moi ça, fais péter un skidrow plutôt.
Ouais,
mais c'est pas pareil, hein.
Du skidrow pour illustrer du black metal, on va passer pour des charlots.
Et voilà, et ben sinon pas d'autres questions pour l'instant, mais il y en a d'autres qui arrivent sous peu, incessamment sous peu.
D'accord, ben moi pour en préambule pour, avant d'évoquer de la place des métals dans les médias, j'aimerais poser cette question de Philoxera qui l'a posée sur le forum de la Sagrate. Est-ce vrai que les hardos mangent des bébés humains?
Oui. Ah. Oui, 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 j'en ai eu la preuve.
Mais seulement petit déjeuner.
Non, non, non. Personne ne mange de bébés humains, il me semble. Non, dans nos sociétés parfaitement équilibrées.
Il y en a qui les congèlent.
Hein, je suis pas sûr qu'ils écoutent du Dark Throne.
Je suis pas sûr qu'ils écoutent du black metal.
Non, ça m'étonnerait.
Il y en a qui mangent des fœtus au nom de l'art aussi.
Voilà. Ah bon ?
Oui. Il paraît que l'art contemporain, il y en a qui mangent des fœtus et tout. Il paraît que c'est.
Alors moi, j'ai accompagné beaucoup de groupes en backstage, hein, et je peux vous assurer qu'ils mangent tout sauf des bébés humains. Et souvent, c'est pas très bon ce qu'on leur donne à manger, les pauvres, des pizzas, des salades.
Peut-être qu'un bébé humain serait meilleur.
Et même les black metaleux mangent des plats, des pizzas au micro-ondes. Hein, c'est pour casser le mythe. Hein. Je suis désolé, mais j'ai vécu ça.
C'est pas du sens. Sauce tomate qu'ils ont. Alors, la place du métal dans les médias, vaste programme, vaste question. Alors, je sais pas si on va faire d'abord à tour de raison dans les médias en général à travers le monde, et après se concentrer sur les médias en France, parce qu'il y a peut-être une différence entre les deux déjà, non?
Oui, alors il y a une différence entre la France, on va dire, et le reste du monde. Non, j'exagère. On peut parler de la France et de la Finlande, par exemple, ouais, qui est un pays que je connais bien et sur lequel j'ai travaillé aussi. Alors, pour la France, c'est intéressant de voir qu'au départ, évidemment, le hard rock est un petit peu mélangé au rock, donc il n'y a pas d'organe encore dédié à ce style. Donc, le hard rock, on va dire, on en parle dans les magazines de rock, comme Rock and Folk, par exemple. Au départ, il a plutôt bonne presse dès lors qu'il est un petit peu politisé. Voilà, on va dire Trust, par exemple. Voilà. Il faut savoir que les premiers groupes de hard rock des débuts des années 80, comme Sortilège, Satan Jokers, on n'en parle pas vraiment dans la presse.
Pourtant, ils ont bien marché.
Pourtant, ils ont bien marché et en fait, ils passent quand même à la télévision. Ils étaient souvent invités à la télévision à l'époque, dans les quelques émissions qui invitaient les artistes. Il faut dire que la musique n'était pas non plus très violente, c'est vrai, hein, au début des années 80. Après, on va dire que les choses se gâtent. Elles se gâtent et pourtant c'est assez paradoxal puisque début des années 80, voilà, je vous fais un petit cours d'histoire pour les plus jeunes, 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir, une nouvelle volonté politique, et notamment une volonté des politiques culturelles. On essaye de démocratiser un peu la culture, on ouvre notamment les radios, c'est la création des radios libres. Et donc là on se dit, chouette, ça va être génial, le hard rock va investir les ondes, on va en entendre partout, ça va être super. Et en fait pas vraiment.
Il y a bien... On en a entendu beaucoup, mais sur des petites antennes, sur des émissions vraiment très confidentielles.
Voilà, alors effectivement, les radios libres, les radios associatives, pardon, proposent des programmes dédiés au hard rock, mais sur les radios généralistes, il y en a peu, à part Francis Aigut qui diffuse un peu de hard rock sur WRTL, hein, qui est la version week-end en fait de RTL à l'époque, dans les années 80. Mais il faut bien savoir que ça reste quand même du hard rock très consensuel, très international. Les groupes français n'ont pas vraiment, on les diffuse pas, à part Trust.
Hormis Trust et Vulcain, ouais.
Voilà, donc c'est vrai que la France le hard rock français n'a pas vraiment profité de cet engouement, on va dire, et les groupes étrangers non plus, évidemment. Hein, tout ce qui est heavy metal, trash metal, américain, anglo-saxon n'est pas diffusé à la radio. Ça va pas s'arranger avec le temps. Il y a eu ce petit intermède au début des années 90 où, avec le succès de groupes comme Metallica et toute la scène grunge, on entend un petit peu de metal à la radio, mais ça va pas très loin quand même. Hein, ça reste Metallica, ACDC, Guns N' Roses, Soundgarden, Pearl Jam, etc. Mais au final, le hard rock à la radio, c'est les radios associatives dans le cadre d'émissions thématiques, et aujourd'hui encore on n'en trouve quasiment pas à la radio. La télévision, c'est à peu près la même chose, à part quelques émissions thématiques comme Metal Express sur la 6,
ouais.
Heureusement, je dirais, et encore bon, il y a ce que j'appelle l'intermède nulle part ailleurs, qui dans les années 90 permet, grâce au programmateur, l'intrusion du métal en direct à une heure de prime time, ce qu'on dit prime time, hein, 19h30, 20h.
On a pu y voir Sepultura, Slayer, Metallica, CDC.
Tous les styles, même le black metal, hein, Dimmu Borgir, ils ont joué là-bas aussi. Donc c'est assez exceptionnel. Je pense que le métal a profité de ça, quelque part, de cet engouement. Mais ça a été quand même exceptionnel. Et on va dire que ça n'a pas donné d'idée aux autres programmateurs à la télévision. Même s'il faut bien être clair, il y a quand même très peu d'émissions musicales généralistes à la télévision, en tout cas en direct, c'est très très rare. Après, quant à la presse, il faut dire que l'image de la presse spécialisée a quand même été toujours très importante en France. On a quand même toujours eu quasiment 3 titres en France depuis 83, depuis le tout premier qui était enfin magazine en 83, ce qui est quand même beaucoup par rapport à d'autres styles musicaux. Ça, c'est quand même beaucoup, 3 titres. Il faut voir qu'au début des années 90, le magazine, le mensuel le plus vendeur en France, toujours confondu, c'est Hard Rock Magazine, avec plus de 100 000 exemplaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est Psychologie Magazine, pour vous montrer comment la société a évolué. Je ne sais pas si la relation de cause à effet.
Qui n'a rien de psychologique d'ailleurs.
Donc, elle a plutôt bien vécu, on va dire. En tout cas, elle n'a pas trop mal vécu la crise de la presse. Quant à la presse généraliste, là, c'est catastrophique. Parce qu'on trouve effectivement quelques artistes sur Trust dans la presse généraliste dans les années 80. Parce que Trust, je le disais, est un groupe français qui chante en français, qui parle de la France. Mais pour tous les autres groupes de métal qui, comme je le disais tout à l'heure, ont plutôt une vocation universaliste, et surtout avec un imaginaire qui n'est pas compris, en tout cas qui n'est pas analysé, qui n'est pas compris par les médias, il est proprement dégagé, voire insulté, dénigré dans la presse, a fortiori dans la presse de gauche, donc Libération, L'Humanité, Le Monde, que j'ai étudié particulièrement, et qui se sont révélés, je le savais déjà, mais qui se sont révélés ultra conservateurs. Sans doute parce que les codes du métal ne vont pas dans la même direction que l'image qu'ils veulent donner de la culture.
Ouais.
Et pourtant, la musique, le métal, je le disais, est une musique universelle, universaliste, donc ça devrait leur plaire, ça devrait les séduire. J'ai essayé de contacter ces médias qui n'ont pas voulu, non seulement ils n'ont pas voulu me parler, mais ils n'ont pas voulu se justifier. Donc je n'ai pas de réponse. Si un jour ils veulent expliquer pourquoi ils dénigrent autant le métal, qu'ils le disent. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand même.
C'est vrai que j'avais vu à l'époque, j'étais tout jeuneau, un truc qui m'avait fait bondir, j'étais en colère. C'était dans Le Parisien, il y avait Iron Maiden qui passait à Bercy, je crois. Et le journaliste écrivait en substance que le groupe utilisait beaucoup d'effets de lumière, d'effets de pyrotechnique pour pallier à la médiocrité de la musique. Voilà.
Alors après, ce qui plaît, on va dire, malgré tout, c'est les vieux groupes. C'est-à-dire ACDC, Motorhead ont toujours une petite place dans Le Monde, par exemple, ou Libération. Mais la scène extrême, notamment la scène black metal, on n'est pas du tout considéré comme une scène musicale, mais plus comme une espèce de scène porteuse d'imaginaire violent. Ce qui peut se comprendre, mais ce qui est un peu dommage, c'est que les gens ne se sont pas penchés sur la question, en fait, n'ont pas essayé de comprendre ce phénomène, n'ont pas interviewé ces artistes, les fans, pour essayer de comprendre quel était le message sous-jacent, ce que moi j'ai essayé de faire à ma façon. Donc au final, on a un énorme décalage entre les journalistes généralistes et le métal. Un décalage, un fossé qui est creusé d'autant plus, je pense, par le fait que les journalistes français ne sont pas forcément très très calés sur la musique.
Ouais.
Je me suis rendu compte qu'à l'étranger, en Angleterre ou dans d'autres pays, souvent les journalistes musicaux étaient des musiciens eux-mêmes. Donc c'était plus facile effectivement de comprendre de la musique.
Forcément,
le métal est une musique, je le disais tout à l'heure, qui nécessite quand même un temps d'adaptation, de compréhension, de réflexion, il faut se poser, il faut écouter, il faut poser des questions, il faut se renseigner. Et c'est vrai que si on n'a pas un peu de culture musicale, si on n'a pas cette culture, il est difficile d'appréhender le phénomène.
Ouais. Et bizarrement, en dépit de ce néant total de vecteurs pour diffuser le métal en France, il y a toujours eu un public fidèle et conséquent.
Bah, le métal, en fait, tous les acteurs du métal ont assez rapidement compris qu'il fallait qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Ouais. Donc ils ont créé leur propre réseau, leur propre mode de diffusion, leur propre vecteur de diffusion, presse, concerts,
fanzines,
etc., les radios associatives. Et au final, je pense que c'est peut-être aussi ce rejet qui les a poussés à garder une certaine autonomie, certaine identité, même si on peut toujours dire qu'il y a des groupes qui ont été vendus, ça on l'entend toujours dans tous les styles. On a accusé Metallica d'être dévendu, on a accusé d'autres groupes, on parlait tout à l'heure du glam d'être dévendu aussi, mais malgré tout la scène métal dans sa presque globalité a vécu en autarcie et s'est développée ainsi, et je pense que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi la conséquence de cette autonomie, cette obligation d'autonomie et d'indépendance.
C'est ce qui va faire qu'elle va s'inscrire vraiment dans le temps aussi.
C'est un peu comme la musique classique en fait, ou la musique jazz aussi, qui à un autre niveau a pu connaître des difficultés médiatiques. C'est des phénomènes, des cultures musicales qui se développent effectivement indépendamment des grands vecteurs de diffusion, parce qu'elles ont un public, parce que le public sait où il peut trouver l'information, dans la presse, à la radio, à la télévision parfois, donc malgré tout il y a des programmes. Et c'est vrai que ça a sans doute renforcé aussi les relations entre le producteur, le groupe et le récepteur qui est le fan.
Et il y a peut-être un effet rotor au fait de vivre vraiment replié sur soi-même en totale autarcie. C'est aussi que si un groupe se met à fonctionner, à bien marcher, et si on bastonne sur une FM, il va être dénigré de façon assez systématique par le public métal français.
Oui, parce qu'il y a deux éléments qu'on observe. Le premier, c'est une forme de complexe de supériorité en fait. On se dit, de toute façon, nous on écoute du métal, la métal c'est la vraie musique, les autres ils comprennent pas parce qu'ils écoutent, ce qu'ils écoutent c'est nul. Ça c'est le premier réflexe, mais c'est un réflexe qui est assez classique en fait, qu'on trouve dans d'autres communautés.
Ouais, bien sûr.
Et le deuxième réflexe, je vais essayer de le retrouver. Je sais plus ce que je voulais dire. Je me souviens plus, ça va revenir, c'est pas grave. Mais en fait, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur d'autres pays en fait.
Oui.
Notamment la Finlande, voilà. La Finlande, c'est intéressant parce que c'est un pays qui, comme la France, a lutté dans les années 70 contre l'américanisation. On a connu une période en Europe dans les années 60-70 d'américanisation très forte, notamment dans la musique, le cinéma. La Finlande, comme tous les pays européens, a lutté contre cette américanisation, mais sans doute de façon moins violente, moins forte que la France. Ouais. Je pense qu'en France, ça a été beaucoup plus fort. C'est sans doute pour ça que le métal, aujourd'hui encore, est moins inscrit dans les habitudes des amateurs de musique et dans les Français en général, chez les Français en général. Alors qu'en Finlande, ça a été rejeté, on va dire, voilà, 10-15 ans, et puis au final, ça s'est intégré, ça a fait partie de la culture. Et il y a un autre élément aussi qui est très important, je pense, en Finlande, c'est que les Finlandais ont introduit dans le métal des éléments de leur propre culture, ce que les Français n'ont jamais fait. Les groupes de métal français n'ont jamais introduit des éléments de la culture française à de rares exceptions près.
Peut-être que l'accordéon se marie pas tellement avec la guitare électrique.
Non, mais bon, je parlais de Truss par exemple. Si Truss a marché, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'il parlait de la France.
Il parlait de la France.
Ah ouais. Les groupes comme Sortilège, comme Satan Jokers, avaient plutôt un imaginaire à base de fantastique. Mmh. Donc c'était un message plus universel et qui n'avait pas vocation à s'inscrire dans la culture française.
Et pourtant, ils chantaient en français, ce qui est quand même chanté dans ce qui est une musique quand même essentiellement anglo-saxonne.
Ils ont chanté en français, mais le problème c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas très bien marché pour eux parce que les maisons de disques qui les avaient signés, qui étaient des majors à l'époque, ont vu qu'ils ne vendaient pas et qu'ils ne pouvaient pas exporter leur musique à l'étranger. Et donc ils leur ont demandé de chanter aussi en anglais. Donc ces groupes-là sortaient un album sous deux versions différentes, une version française et anglaise. Sauf qu'évidemment les versions anglaises se sont révélées catastrophiques parce que l'accent était catastrophique, les textes étaient très mauvais, donc ça ne marchait absolument pas. Et au final ils se sont fait jeter de leur maison de disques. Et comme à l'époque il y avait absolument aucun label spécialisé dans le métal, ils se sont retrouvés, on peut le dire, à la rue.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y a eu un néant dans le métal français entre 85 et on va dire au début des années 90. Ouais. Et ça a fait beaucoup de mal aussi, je pense, à l'enracinement de la culture métal en France.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, parler de Truss qui a vraiment bien marché, y compris à l'étranger, à titre comme antisocial, a été remis au goût du jour à la fin des années 80, en 88, par Anthrax. Alors, qui a fait une reprise d'antisocial et un peu plus tard, en 91, sur un album de Phase B où il reprenait les sectes. Et c'est vrai qu'on traque, c'était vraiment un groupe américain qui cartonnait vraiment tout azimut, qui était un des gros vendeurs de disques outre-Atlantique et même dans le monde, et qui claironnait à qui voulait entendre qu'un des meilleurs albums de hard rock des années 80, c'était Répression de Truss.
Ouais, et puis ce qui est très intéressant, c'est que au final, même si le métal français c'est pas vraiment, n'a pas eu à part Trust de gros groupes, de gros leaders, finalement il s'est tourné plus vers une scène extrême. Et on voit que les groupes de métal français qui ont le plus marché sont des groupes extrêmes comme Lloyd Blast ou Massacra, ouais, dans les années 90. Bien et sûr. C'est peut-être aussi cet aspect des choses, enfin le fait que le métal était un peu rejeté, un peu en marge, a poussé les groupes finalement à avoir un côté plus extrême. Et c'est peut-être ça aussi aujourd'hui l'identité du métal français, c'est une musique plus extrême, qui est absolument anticommerciale, mais qui fonctionne parce que
qui se vend,
oui, parce que quand on va, moi j'ai beaucoup voyagé, puis je me suis rendu compte à l'étranger que les étrangers connaissaient des groupes de métal extrêmes, ils connaissaient certains groupes de métal extrêmes. Lloyd Blast, Massacra étaient connus en Finlande, en Allemagne.
Bien sûr.
Donc ça montre finalement que bon bah le schéma qui a été adopté contre leur gré évidemment, bah s'est révélé intéressant, parce que on a une vraie scène aujourd'hui métal extrême, et on voit bien avec Gojira qui est le leader actuel de la scène métal française, et qui est un groupe quand même très violent, très violent. Ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir avec Trust ou avec Iron Maiden.
Et c'est vrai que l'année dernière on avait Vincent de The Old Detri qui était là, qui nous disait que en gros les deux tiers de leurs ventes s'effectuaient hors de France.
Ah oui, donc de toute façon les groupes français, c'est clair qu'ils vendent, ils vont vendre, et s'ils sont bien distribués, ils vont vendre beaucoup dans le Benelux, et c'est-à-dire Pays-Bas, Belgique, Belgique, Luxembourg et l'Allemagne, qui est le gros marché, qui est un gros marché. Après, s'ils ont la chance d'avoir un très très bon distributeur, ça peut aller dans les pays nordiques. Mais en général, c'est vrai qu'ils vont plutôt vendre en Allemagne. L'Allemagne est un gros marché, a toujours été un énorme marché pour le métal. Pour des raisons que je ne connais pas, il faudrait voir s'il y a eu des études de l'Allemagne. Moi, j'ai pas travaillé sur l'Allemagne, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que on peut se demander pourquoi culturellement l'Allemagne est plus alors que le métal n'est pas vraiment médiatisé non plus là-bas. Hein. Mmh. Faut pas se voiler la face sur les chaînes de télé, à la radio, on n'entend pas non plus beaucoup de métal. Il y a quelques groupes comme Rammstein qui ont percé, mais en
2006, à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football qui avait lieu donc en Allemagne, avait été invité un groupe comme Tankard, par exemple.
C'est vrai. C'est vrai. Bon. Ah, mais c'est parce qu'ils étaient sponsorisés par une marque de bière.
Certainement. Jules, il y a des questions sur le chat ?
Oui, il y a des questions de Bonobo. Bonobo, Bonobo. Alors, ayant discuté avec des vieux fans de hard rock, ceux-ci me disaient que dans les années 80, ils ne pouvaient aussi bien aller à des concerts de glam que à des concerts de trash. Or, aujourd'hui, il semble qu'il y ait une guerre de clochers. Dong, dong.
Oh, j'ai l'impression que c'est l'inverse, moi.
Les fans de Heavy détestent le death, ceux de Black crachent sur le prog, les amateurs metal old school n'aiment plus rien. Est-ce une légende ou y a-t-il effectivement un communitarisme plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans?
Non, je crois pas. Il y a eu quand même des mouvements très 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 virulents entre le glam d'un côté et ce qu'on appelait power trash metal, le heavy metal.
Moi j'écoutais Motley Crue en cachette. Hein.
En remontant même plus loin, au début des années 80, si vous étudiez un peu les courriers des lecteurs dans Enfer Metal Attack, c'est les courriers des lecteurs sur des types qui écrivent pour dire nous on est fans de heavy, on en a marre de ces trucs funk rock, glam machin. C'est vraiment très très agressif. Je pense qu'aujourd'hui, non, il y a des querelles, oui, bon, d'accord, mais d'une manière générale, je pense qu'un fan de death va aussi bien aller à un concert de black, de death, que de trash, que de heavy. Après, il y a peut-être une scène heavy metal mélodique qui est peut-être un peu à part, tout ce qui est Stratovarius, Engrais.
Alors, ça, c'est juste le spécialiste.
Hein, Nightwish. Peut-être qu'effectivement, les fans qui aiment ce style apprécient d'abord le côté un peu vocal, un peu chantant, un peu mélodique, voire symphonique, donc ils auront peut-être du mal à écouter du métal extrême.
Et pourtant, non.
Mais moi, de toute façon, le signe, c'est les festivals, les grands festivals métal. On m'a posé la question à ma soutenance de thèse, on me dit oui, mais les festivals, ça existe dans tous les genres. Oui, mais vous trouvez un festival comme le Wacken, vous allez avoir un groupe de grindcore et de death black extrême, et vous allez avoir à côté un groupe de heavy metal, voire de hard rock même. Mm-hmm. Les festivals de jazz ou de rock ou de rap n'ont pas un environnement aussi diversifié. Ouais. Et le Wacken, le Hellfest, qui est l'excellent festival qui a lieu en France depuis quelques années, reflète absolument cette réalité aussi. On côtoie des publics très différents, et personne ne se tape sur la figure, que je sache.
Exactement, tout à fait.
C'est exceptionnel.
D'autres questions ?
La question. Ah non. Si, enfin, une question toute bête de Bonobo encore. Je crois qu'il y avait un rapport, mais pas tout à fait. Pourquoi en France on n'a pas de réelle culture rock ? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-on victime du syndrome Johnny Hallyday ?
Non, je sais pas ce que c'est que le syndrome Johnny Hallyday.
Peut-être que le syndrome Johnny Hallyday, c'est peut-être croire qu'il représente le rock à lui tout seul.
Tout est dans la notion de culture, effectivement. Une question de culture. La culture, ça commence à l'école. Moi, je me suis intéressé encore une fois à la Finlande et aux pays nordiques d'une manière générale. L'enseignement musical à l'école, dès l'école, parce que c'est là où ça commence, il est totalement différent en France. En France, moi, quand j'étais à l'école, on apprenait le solfège, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose d'apprendre la musique. On apprenait la flûte et le piano, ce qui est peut-être bien, mais il faudrait aussi donner la possibilité aux jeunes de faire autre chose. En Suède, dans toutes les écoles, dans tous les collèges, vous avez une salle de répétition avec une guitare, une basse, une batterie. Mmh. Et les jeunes, quand ils ont des heures de repos, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Ah ouais. Ils peuvent faire du rap s'ils veulent, mais ils peuvent faire du death metal aussi s'ils le veulent. Personne ne va leur jeter la pierre. Donc dès le plus jeune âge, et en tout cas dès la scolarité, le groupe s'inscrit dans l'enfant, dans l'apprentissage. Ouais. En France, il s'inscrit en dehors de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va faire un groupe de métal en dehors de l'école, en dehors du collège, ou parfois pour faire chier ses parents. Ce qui est un peu dommage. Et donc à ce niveau-là, effectivement, il y a de grosses différences culturelles qui, évidemment, se pérennisent par la suite.
Forcément.
C'est là où la différence est très importante. C'est dès lors que les pouvoirs publics considéreront qu'il y a un type de musique qui doit rentrer dans l'apprentissage et l'autre type de musique, finalement, qui soit rock, électronique ou hard rock, bah, fait partie, hein, on va dire, de. Bah, c'est comme le tennis en fait, hein, on fait ça à côté pour s'amuser. Non, moi je pense qu'il faudrait réinscrire vraiment, redéfinir la politique culturelle musicale en France pour donner la possibilité à tous les jeunes de pratiquer la musique qu'ils aiment dans un environnement stable. C'est-à-dire, c'est vrai que si on n'a pas d'argent, ça coûte cher de faire du métal. Il faut quand même faire du rap aussi, il faut acheter du matériel. Ouais. Donc si vous n'avez pas les moyens techniques de le faire, c'est très difficile. Si l'école proposait de le faire, je pense que la France pourrait rapidement se mettre au même niveau que les autres pays, Suède, Finlande ou même Allemagne, où les possibilités sont aussi importantes.
Puisqu'on parlait tout à l'heure de la place du métal dans les médias généralistes, je vous propose de faire une pause musicale avec trois groupes qui ont cartonné partout dans le monde, hein, on va dire. Dans un instant, on écoutera Guns N' Roses avec un extrait de l'Appetite for Destruction.
C'est pas le nouveau ?
Non, c'est pas le nouveau. Le nouveau, on l'écoutera peut-être dans deux ou trois ans. On écoutera You're Crazy, extrait de l'Appetite for Destruction de 1987. Je me souviens d'ailleurs d'un live au Ritz qui était diffusé dans une des toutes dernières émissions des Enfants du Rock et que j'avais sur VHS que je me passais en boucle à l'époque. Juste après, on écoutera un extrait du Black Album de Metallica. On pouvait pas passer à côté.
Classique.
Voilà, le Wherever I May Roam, et puis on va commencer tout de suite avec Iron Maiden en 1984. C'était extrait de l'album Power Slave, c'est Flash of the Blade. Wherever I may roam. Nicolas, tu as...
J'ai bougé mes cheveux.
Les cheveux qui tressent comme moi, toi. C'est... Carrément. Metallica, extrait du Black Album de 91. Titre interplanétaire qui a vraiment cartonné partout sur la planète.
Tube.
Guns N' Roses, juste avant, avec You're Crazy, extrait de l'album Appetite for Destruction de 1987. Et puis Iron Maiden, l'album Power Slave de 84 avec ce titre Flash of the Blade. J'adore tous les titres de cet album, mais j'ai pris le plus court. Voilà.
C'est dur de choisir, hein. C'est vraiment cet album est vraiment fantastique.
Ces trois albums
sont fantastiques en fait.
C'est pas facile à trouver quoi. Voilà, Nicolas Bénard est donc notre invité pour parler de la culture hard rock et de la thèse qu'il a consacrée à ce sujet et du bouquin qui en découle, paru chez Dilecta au mois de mai dernier. Mais pour l'instant, c'est l'heure de gloire de Jules Melon, car je ne sais pas si tu as comptabilisé ce genre musical du métal dans ton bouquin.
Il en paraît
tellement. Mais sache qu'ici nous avons un spécialiste du métal touche beat. Toutes les semaines, Jules Menon nous fait une suggestion Metal Touch Beat.
Et ce soir,
il nous parle de caniche. Je ne sais pas.
Oui, bon. Allez, on va aller au toilettage pour chien. Pendant qu'il y a des petits réglages de son, hein, on est dans la confidentialité de l'émission. Donc nous allons en Suède. Nous restons en Suède cette semaine pour parler d'un groupe qui s'appelle The Peau de Rose, qui veut dire les caniches en anglais, pas en suédois.
Oh là le nom quoi.
The Peau de Rose.
The Poodles Abricot. Ouais.
The Apricot Poodles.
The Poodles Dwarves. Les caniches, non. The Dwarf Poodles.
Bon, c'est un groupe qui a été créé en 2005 à Stockholm, donc
c'est pas du black.
Récent. Non, ce n'est pas du black.
Non, c'est clair.
Alors, ils ont comme premier fait d'armes d'avoir participé aux finales suédoises pour l'Eurovision 2006.
Ah, d'accord.
Avec la chanson Night of Passion. C'était très intéressant, mais ils se sont fait battre. C'était d'ailleurs leur premier single qui débouchera sur le premier LP Metal Will Stand Still. Non, mais d'ailleurs je me suis gouré. C'est Metal Will Stand Tall, pardon.
Will Stand Tall.
Bah, ça aurait pu être Will Stand Still anyway. C'est un thème d'ailleurs. Ils abordent un thème très cliché, hein. L'amour, le métal, un peu glam, hard rock, heavy. Enfin voilà, c'est leur style. Alors, ils ont eu un grand succès local malgré quand même un aspect peut-être un peu trop simpliste qui a eu. Du coup, il y a eu des critiques assez mauvaises de cet album. Cependant, ils sont revenus en 2007, une année plus tard, avec la même idée, un second opus plus travaillé, sorti sous le nom de Sweet Trade chez AFM Records.
Ah, quand même.
Et oui.
Et quand
oui.
même, un label allemand.
Bah oui. Ouais. Et distribué par Underclass.
Ouais, en plus, ils ont été distribués par Underclass d'ailleurs, et qui a reçu de meilleures critiques. Du bon hard rock, un peu heavy, très suédois, très Europe, très beaucoup de choses. Et malgré l'aspect commercial et accrocheur qui reste flagrant, comme en témoigne la chanson Thunderball que je vous ai choisie pour ce soir, eh ben disons qu'ils ont su progresser et ils ont su se faire une petite place quand même, malgré leur côté un peu cliché et volontairement humoristique aussi. Ils ont réussi à se faire une petite place dans la scène suédoise et c'est pas facile de se faire une place sur la scène suédoise.
C'est ça qu'il y a du monde. Hein.
Voilà, donc nous allons écouter de Poodles avec le titre Thunderball.
Bien, allez, jingle.
C'est énorme, hein?
I love the metal touch beat!
Salut, c'est Melonman sur la grosse radio!
La suggestion du melon.
Melonman!
Et oui, c'était The Poodles, les Suédois de The Poodles, avec le titre Thunderball, extrait de leur second album Sweet Trade, sorti l'an passé chez AFM Records. Et c'était bien l'ancien chanteur de Midnight Sun.
Ouais, et bah, c'est bien. Si ma femme nous écoute encore, elle va être ravie parce qu'elle adore Midnight Sun. Ah, donc, voilà. Je vais récupérer ce disque.
Voilà. The Poodles, les caniches, donc. Merci, mon Jus, pour cette belle suggestion très, très hard rock, en fait.
Très old school et moderne à la fois. Je voulais faire un petit peu une sorte
De. Voilà, ça tu as presque pu te priver de jingle, c'était pas tellement touche vite.
Ah, un petit peu quand même. Mais avec le nom, si, le nom du groupe, il est très.
Ouais, c'est vrai que les caniches, c'est tout, je vite. Bien, il est 21h35, on est très en retard sur l'horaire de l'émission, mais bon, qu'à cela ne tienne, on va déborder, puisque l'émission est très intéressante et que les chatteurs ont l'air d'être assez passionnés également. Ouais. Avant d'évoquer les relations entre le métal et le corps social, comme on a appelé ça, à savoir à l'école, dans l'université, tout ça, j'aimerais savoir s'il y avait des questions encore à aborder. Ou pas?
Pas de questions en plus pour l'instant, beaucoup de réactions mais pas trop de questions pour l'instant.
Bonnes réactions.
Oui, oui, oui. Ils sont accrochés à la volubilité de notre invité.
La volubilité de notre invité.
Oh la vache. Joli. je vais le noter ça.
Donc Nicolas, on va parler un peu donc des relations entre comment le métal est perçu, est-ce qu'il y a une formation métal, enfin voilà, la totale.
comme à l'école, c'est vrai que les cheveux longs sont toujours un petit peu mal vus, en tout cas chez les garçons. Mmh. Hein. Même si je pense, d'une manière générale, en fait, après avoir analysé un peu différentes sources, je me suis rendu compte finalement, c'était pas si difficile que ça d'être un métalleux en France. Hein. Faut pas non plus exagérer. Même si effectivement, avoir les cheveux longs, se promener avec un t-shirt avec quelques symboles pentacles et autres têtes de bouc, ça peut provoquer l'ire de quelques personnes un peu susceptibles dans le métro ou dans le bus ou dans la rue. Mais bon, d'une manière générale, je pense que voilà, les jeunes peuvent écouter ça et en jouer sans problème. On le voit, il y a des concerts à peu près tous les jours à Paris, en province et dans le reste du monde, des grands festivals, même si le Hellfest a eu un petit peu de mal à se lancer, même si les organisateurs ont un peu de mal à obtenir des subventions. Je pense que si on se débrouille, on se bat et qu'on y croit, on peut faire du hard rock en France et mettre en place un événement sans trop de problèmes. Après au niveau politique, et c'est là où c'est intéressant aussi, hein, on se dit souvent que bon, les hommes politiques n'aiment pas le métal. Alors c'est vrai que je suis à peu près sûr que la plupart des hommes politiques n'en écoutent pas, mais c'est pas ça qui compte. D'une manière générale, le métal n'a jamais été considéré comme un méchant style musical qu'il fallait proscrire. Hein, donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il aurait pu bénéficier un peu de l'engouement de des années 80. Il en a profité d'ailleurs à la Fête de la Musique aussi. Hein, il y a des groupes de métal qui jouent à la Fête de la Musique qui sont pas interdits.
Formidable, la Fête de la Musique.
Ouais. Ouais, voilà, même si les grandes scènes de la scène de la fête de la musique n'invitent pas les groupes de métal, mais ça on sait aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de gros groupe majeur. S'il y avait un gros groupe qui vendait des dizaines de milliers d'albums, évidemment, il serait convié dans ces manifestations. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est pas difficile, on peut s'exprimer. On est quand même en France, hein, rappelons-le, malgré tout. Donc la paranoïa, parfois un peu excessive, que j'ai pu relever chez certains fans, me semble largement déplacée, même si d'aucuns diront oui, mais moi j'ai voulu monter un festival, on m'a pas aidé, moi on m'a pas donné cette salle. Oui, il y aura toujours des oui, mais c'est vrai qu'il y a eu le Metal Therapy, je sais plus en quelle année c'était, du côté de la Lorraine, ouais, qui avait eu une petite pression par rapport à la venue de l'Impala Zaren, qui diffusait un imaginaire qui ne correspondait pas à celui qu'attendait une certaine association dont je ne préfère taire le nom ce soir. Mais bon, voilà, du manière général, il y a des concerts de black metal toutes les semaines, bon, pas de problème. Et du côté de la police, alors là, ils adorent les métalleux, hein.
C'est vrai qu'il y a
ils adorent les métalleux, je peux vous dire qu'ils m'ont dit alors si on pouvait organiser des matchs de foot comme des concerts de métal, ça serait génial. Je rappelle qu'il y a à peu près je sais pas 500 ou 600 CRS tous les 15 jours au Parc des Princes. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup quand il y a un concert d'ACDC ou au Stade de France, de Metallica ou de black metal à la Locomotive. Donc, et on l'a bien vu au Hellfest, hein, les gendarmes étaient ravis de d'assister cette, parce que c'est de l'assistana,
hein,
d'assister cet événement, parce qu'ils se sont rendu compte que les mecs étaient très sympas et qu'il n'y avait pas de problème, hein.
Ouais. Le Hellfest qui a également son lot de petits râleurs
clérico. Ouais. Ah, mais quand il y a des anti, ça veut dire qu'il y a de l'espoir.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Dans une société qui fonctionne, il faut qu'il y ait des pros et des anti. Et quand il y a des anti, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vit, il y a de la vie. C'est bien.
C'est vrai. Il y a une question de Sand sur le forum de la Houssagrade qui nous demande, est-ce que le hard rock a été influencé par la musique classique ?
Absolument, absolument. Oh. C'est ce que je disais au début de l'émission. Cet auditeur ne devait pas être là à ce moment-là. Je plaisante. Non, on peut en parler un peu plus. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le métal avait puisé dans toutes les formes musicales existantes, la musique classique étant la plus ancienne. Donc, dès les années 70, un groupe comme Deep Purple, et surtout Rainbow, qui, on va dire, est une excroissance postérieure de Deep Purple, est très influencé par la musique classique. Comment me direz-vous ? Notamment par la modification des techniques de guitare, en fait. Puisqu'on passe de rim blues, typiquement blues qu'on trouvait chez Led Zepp et tous les groupes un peu de la même veine, à des gammes un petit peu différentes qui sont blues aussi parfois, mais qui peuvent être néoclassiques, avec des gammes pentatoniques. Et un groupe comme Deep Purple, notamment un guitariste comme Richie Blackmore, a influencé énormément de musiciens de métal, guitaristes mais aussi claviéristes, qui intègrent des éléments de musique classique. Alors ça peut être très diversifié, évidemment. Ça peut être du Bartok, ça peut être du Vivaldi, ça peut être du Mozart, mais on retrouve énormément de groupes qui reprennent des thèmes de musique classique, qui le jouent à la guitare.
Rhapsody par exemple.
Rhapsody, on parlait d'Ingrid Malmsteen tout à l'heure, Patrick Ronda aussi, qui a repris un mouvement de Vivaldi. Autre aspect, c'est que depuis, on va dire, une dizaine d'années, les groupes qui en ont les moyens, évidemment, associent à leur musique des éléments classiques, donc introduisent un véritable orchestre. Alors ça peut être 4 violons, 2-3 flûtes, mais ça peut être, quand ils sont très riches, un véritable orchestre. On l'a vu avec Metallica, bien sûr, on l'avait vu aussi avec Deep Purple, Scorpion. On l'a vu avec des groupes plus extrêmes comme Dimmu Borgir, qui fait du black metal. On l'a vu avec Nightwish, qui aussi a intégré Stratovarius, qui sont dans la veine plus heavy metal, mais qui ont introduit aussi un orchestre complet. Donc on le voit, la musique classique intervient à différents niveaux, non seulement au niveau de la composition, de l'influence, mais maintenant au niveau du jeu. On introduit vraiment des instruments classiques, et le chef d'orchestre qui accompagnait en fait Dimmu Borgir sur leur premier album, où ils introduisaient un véritable orchestre, disait que pour lui c'était très intéressant parce qu'il trouvait des similitudes en fait entre la musique classique et le métal. On parlait tout à l'heure du fait que ça soit anti-mode, que ça soit pas inscrit dans le temps, mais aussi dans un côté un peu épique, et une forme de puissance aussi. Il faut bien savoir, les fans de musique classique, s'il y en a qui nous écoutent, que l'opéra par exemple peut demander énormément de concentration et d'attention, qui est une musique qui peut être très agressive, très violente, qui ne s'écoute pas comme ça dans la voiture ou c'est voilà. Donc il y a des similitudes en fait entre le métal, et c'est finalement très normal que les deux se soient rejoints. Les musiciens classiques adorent travailler avec les musiciens de métal. Ils ont du mal à comprendre comment on peut faire de la musique sans lire des partitions. Les musiciens de métal ont du mal à comprendre comment on peut faire de la musique assis sur un fauteuil, mais en tout cas ça se passe très bien. On l'a vu par exemple avec le live de Metallica qui à mon sens c'est un travail intéressant, même si on peut le critiquer, mais qui est en tout cas assez intéressant, d'un vrai groupe de métal, d'un vrai orchestre de musique classique.
Mais tu parlais de Deep Purple, Deep Purple, ouais, qui a été un des premiers groupes en 69 à jouer avec un orchestre, le Royal Philharmonic de Londres, ouais, sur une pièce classique composée par le clavier John Lord. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur cet album-là qui est apparu pour la première fois Ian Gillan. Mm-hmm.
Oui, puis on a d'autres musiciens de métal qui revendiquent une culture classique. On a André Matos, par exemple, qui est l'ancien chanteur d'Angra et l'actuel chanteur de lui-même, d'ailleurs. Lui-même, je crois que c'est ça. Oui. Voilà, il est en solo. Si je me trompe pas, André Matos qui a des compétences de chef d'orchestre et qui, oui, est capable de lire des partitions, d'écrire des partitions et de diriger un orchestre.
Je savais qu'il fasse que ça.
Et c'est sur son dernier album, premier album solo, il a d'ailleurs introduit pas mal d'influences néoclassiques.
Voilà, tout à fait. Donc on voit après aussi avec Nightwish, l'ancienne chanteuse de Nightwish, Tarja Turunen, qui essaye tant bien que mal d'avoir une formation de chanteuse lyrique et qui voudrait en faire son métier. Donc on voit de plus en plus ces rapports, et pas que dans la musique, pas que dans le métal, je dirais mainstream, mais aussi dans le métal extrême. Un compositeur comme Vegard d'Empereur est très 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 amateur de musique classique. Il écoute beaucoup de compositeurs nordiques comme le norvégien Grieg ou le finlandais Sibelius, par exemple. Ouais. Et ça l'influence dans son processus de composition.
Mais le fait de rechercher comme ça à s'acoquiner avec la musique classique, est-ce que c'est pas aussi une façon de chercher une légitimité par rapport aux gens qui disent que le hard rock c'est pas de la musique?
Non, je pense que ce qui rejoint les deux, c'est le côté musical. C'est que le métal a toujours été une musique musicale, je dirais. Ça vient d'une musique qui peut exister sans texte. Ouais. Je vais prendre un exemple en date auquel je pense parce que je l'ai lu tout à l'heure dans une interview d'un guitariste américain qui s'appelle Jeff Loomis, qui est officier dans Nevermore. Ouais. Il vient de sortir un album solo, c'est
excellent,
un guitariste.
D'ailleurs.
Et il disait qu'en fait, le premier morceau de cet album solo, c'est un morceau qu'il a composé pour Nevermore. Mmh. Donc il devait au départ avoir du chant. Et il s'est dit, au final, je vais le sortir sur mon album, il n'y aura pas de chant, c'est pas grave. Et ça passe très très bien. Ouais. Et on le voit avec des groupes comme Led Zeppelin, comme Iron Maiden, comme Deep Purple, enfin, je pourrais vous citer un million de groupes qui, d'ailleurs, quasiment tous les groupes, ou presque, sortent un jour un morceau sans texte. Ah ouais. Ah ouais, Metallica, vrai, évidemment. Donc, ça montre que c'est une musique qui existe en dehors des textes, et c'est normal qu'elle s'acoquine, pour reprendre ton terme, avec la musique classique qui existe aussi sans texte, même si elle peut en ajouter.
Bien. Je pense qu'on arrive à un moment où on peut parler de fusion des genres dans le métal, puisque l'on a parlé du symphonique, on l'écoutera dans un instant avec Therion, qui est un des pionniers, peut-être.
Hein, oui, absolument.
À avoir justement cherché ses incointances avec la musique classique. On écoutera un extrait de l'album Vauvine de 1998. Ah, je vois que j'ai tapé dans le mille.
Un chef-d'œuvre. Therion, ouais. Sans doute le meilleur album du groupe.
Ouais, Black Sun, c'est ce qu'on écoutera. Et juste derrière, là, on va carrément partir dans un autre univers, à savoir la funky. C'est vrai que comme ça, de but en blanc, metal funky, choc des cultures, et ça donne naissance à quelque chose d'assez énorme qui s'appelle Infectious Grooves, avec un certain Robert Trujillo à la basse à l'époque, qui a une excroissance du groupe de skaters, moitié hardcore, moitié trash. Ça, jamais trop ce que c'était que ce Side Lotan 6 finalement.
Non, c'est vrai, c'est ça, c'est un mélange de trash et de skate.
Voilà, c'est ça. Donc Infectious Groove, extrait de l'album de 91 qui s'appelait The Plague That Makes Your Body Move. It's Infectious Groove.
The Plague.
Le fléau.
Voilà.
Bravo. The Plague That Makes Your Body Move. It's Infectious Grooves. On écoutera Stop Funkin' With My Head.
Wow, là c'est. Et en plus, tu l'as dit, la contraction et tout, rapide et tout, à la vraie anglaise américaine, moi je dis.
Pas fait exprès.
Bravo. J'ai pas choisi ces titres, mais franchement, je les valide des deux mains.
Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis, Julien avait une petite réclamation à faire.
Non, mais non, finalement, c'est un bon choix parce que c'est récent en plus.
Voilà, je me suis dit, c'est le dernier coup de cœur pagan que j'ai pu avoir. C'est un groupe suisse qui s'appelle Elouvesi, ouais, qui présente l'avantage pour cet album. Enfin, l'avantage, en tout cas, c'est un événement d'être signé sur une major chez Nuclear Blast. On écoutera donc un extrait de l'album Slania, sorti donc dans le courant de l'année, et on écoute Slania Song, les Suisses d'Elouvesi. C'est du pagan folk, on va dire.
Du mano metal.
C'est du mano metal, c'est parti.
Folk metal, ouais.
Ouais.
Yeah.
The plague, pardon. Ah, l'autre, il se fout de la gueule, non, c'est The plague that makes your body move, it's infectious grooves.
Yeah.
Exodus de 91, c'était Stop Funkin' With My Head. Juste avant, Therion, Black Sun, extrait de l'album Bovine de 1998. Et puis, LUVC avec Slania Song, extrait de l'album Slania sorti dans le courant de l'année. Histoire d'illustrer un petit peu les propos qu'on avait pour évoquer le métal. Et le mélange des genres, on va dire.
Et par rapport à Therion, pour revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure de satanisme, on peut parler aussi d'ésotérisme. Hein,
ouais, bien sûr.
Et par rapport à Therion, Christopher Johnson, qui est le membre principal de Therion, fait partie d'un ordre ésotérique qui s'appelle l'ordre du Dragon Rouge, qui est un ordre nordique en fait, qui a vocation, on va dire, c'est un ordre philosophique, hein, voilà, sur la réflexion sur le corps et l'âme de l'homme.
Bien. Des questions sur le chat, monsieur Jules Melon.
Une question d'Apophis qui demande le hard rock est-il indissociable de la bière? Bonne question.
Ah, bah ce soir, oui. Hein.
Oui.
On n'a pas été faire des courses et le frigo est vide. Voilà.
Voilà.
On carbure à l'épargne, c'est vous dire c'est la misère dans laquelle on se trouve.
Ouais, Oui, bah c'est vrai que la bière, peut-être, mais. Est-ce que c'est vraiment ça fait vraiment partie de la culture, je dirais non.
C'est partie du folklore.
C'est partie du folklore, voilà. Bon après il y a quelques groupes comme Tankard par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait de la bière son credo.
Puis sinon il y a des groupes de gothic metal qui aiment bien aussi la bière, mais pas la même bière. Une sorte de
Ah joli, très joli, très très beau. Mais Metallica aussi d'ailleurs.
Ouais.
La mise en bière de Metallica.
C'est vrai, dernier album.
Est-ce la mise en bière de Metallica?
Peut-être.
Ou pas, peut-être.
Allez savoir.
Ça sera le suspense, on verra dans 4-5 ans.
D'autres questions?
Pour l'instant, non, à part Floria qui demande SM, mais ça sera pour la prochaine pause.
De quoi?
Vous voulez parler à SM.
D'accord. Bah, tu que t'appelleras Floria en antenne. On te fait des grosses bises, Madouce. On va continuer un peu dans le métal et les phénomènes annexes. J'aimerais qu'on cause un petit peu de tout ce qui est rapport entre le métal et la politique. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que le métal n'était pas forcément un genre musical très politisé, mais ça peut arriver.
Oui, il y a des groupes, bon, on parlait de Trust tout à l'heure, qui étaient pas politisés, mais en tout cas qui manifestaient un engagement, on va dire plutôt un engagement citoyen, mm-hmm. hein, plutôt que politique, ou alors politique au sens historique du terme. Après, aux États-Unis, oui, il y a eu des groupes qui étaient très engagés. Bon, il y a Testament, par exemple, qui est un groupe de thrash metal dont l'un des membres est d'origine Native American, puisque je vois ici qu'il faut prononcer avec le bon accent anglais.
Native American.
Voilà, donc dont il a ils ont notamment composé plusieurs titres sur la chute, on va dire, hein, ou les difficultés de la population indienne originelle des États-Unis. Il me semble même qu'ils avaient fait un concert une fois dans une réserve indienne, voilà, avec sans doute un lot de surprises. Après, on parlait en antenne tout à l'heure de Rage Against the Machine, qui est un groupe qui est très politisé à gauche. Un groupe comme Ministry aussi,
bien sûr.
dont le leader Ali Jorgensen a fait de George Bush Junior, ou d'ailleurs même George Bush les deux sans doute.
Le père,
père et fils a fait du père et du fils, on va dire, ses cibles privilégiées.
Ouais.
Donc il y a quelques groupes effectivement qui s'engagent en politique. Je me souviens aussi de l'association Rock the Vote, qui est une association américaine qui s'est créée dans les années 90 pour encourager les jeunes à voter et qui avait fait appel à des musiciens, à des artistes connus. Notamment Dave Mustaine de Megadeth, qui s'était engagé, qui avait fait des clips qui étaient diffusés à la télévision justement pour encourager les jeunes à voter. Donc oui, il y a des endroits où les hommes, où les artistes deviennent des citoyens et participent à la politique. En France, à ma connaissance, non, j'ai jamais trop vu, même si on a tendance à dire que Gojira se serait lancé dans une croisade écolo. Le groupe s'est un peu démarqué de ça en disant que non, ils voulaient pas être étiquetés groupe écolo, mais que c'était plus un message sur l'homme, sur la destinée de l'homme, etc. Donc il n'y a pas vraiment, on peut pas dire qu'il y ait une scène, on va dire, politique en France, mais oui, il y a des groupes très très connus, très engagés.
Il y a une question qu'a posé Magmamad sur le forum de la Oussagrate. Est-ce que la culture hard rock, qui existe depuis une trentaine d'années, déborde sur d'autres formes d'art, comme la peinture, la sculpture ou encore la littérature?
Alors c'est vrai que si le métal a cette influence, a été influencé par d'autres pratiques culturelles, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se sont influencés du hard rock, enfin qui ont été influencés par le hard rock, c'est vrai. Pour la peinture, moi j'ai rien trouvé. Il y a eu quelques films sur le métal, mais pas beaucoup en fait. Hein, au final, Presque célèbre, Almost Famous. C'est pas vraiment sur le métal, mais c'est sur un groupe de hard rock. Ouais. Il y a eu un film sur Judas Priest, sur l'ancien ex chanteur de Judas Priest. Mais après, le métal en tant que sujet, ça semble pas vraiment inspirer les écrivains, les auteurs, les romanciers, les cinéastes.
Il y a un film d'animation heavy metal. Dans les années 80.
Ouais, mais c'était par rapport à la revue, je crois.
Avec toute une illustration sonore, justement, une bande son. On retrouvait Trust, qui chante en anglais. Et une version anglaise, et puis il y avait également Sammy Hagar, il y avait Donald Fagen, il y avait.
Alors le métal au cinéma, on le trouve effectivement sur les bandes originales. À l'origine, on va dire que c'est plus dans les films d'horreur.
Ouais.
Tous ces films d'horreur, on trouve souvent du Iron Maiden, du Kiss, du Motorhead, ce genre de choses.
Il y a même du Slayer dans les Gremlins.
Ouais, c'est vrai. On a même du Cannibal Corpse. Bon, c'est pas un film d'horreur, mais dans Ace Ventura avec Jim Carrey, on le voit en train de traverser la scène pendant un concert de Cannibal Corpse. Mais en fait, à partir des années 90, le métal investit un peu plus influence un peu plus les réalisateurs. Je pense à David Lynch, par exemple, qui a fait appel à plusieurs reprises à Marilyn Manson et Rammstein, je crois. On trouve aujourd'hui un peu plus de groupes de métal sur des bandes originales de films, notamment des blockbusters. Ça, c'est la grande mode depuis une dizaine d'années. Les blockbusters qui, évidemment, s'adressent à un jeune public. Ouais. Donc, les réalisateurs sont pas stupides quand on fait un film sur les X-Men ou Superman. Si on met un groupe de métal qui cartonne dedans, c'est sûr que ça va marcher. Mission Impossible avec Metallica. Je sais que même Dimmu Borgir, un groupe de black metal norvégien, a figuré sur la bande originale d'un film, alors je sais plus ce que c'était pas les X-Men, c'était un blockbuster aussi tiré d'un comics américain.
On voit
que ça, voilà.
On se rappelle de Guns N' Roses avec Terminator 2, You Could Be Mine,
Dirty Harry aussi. Dans Dirty Harry. Donc, dès lors que le groupe marche, effectivement, le réalisateur il est pas bête, hein, il sait très bien qu'en mettant Metallica sur l'affiche de son film, il va attirer les fans de Metallica. Il y a eu d'ailleurs d'autres films qui avaient des bandes-son vraiment dédiées au métal, je pense à The Crow par exemple, au premier The Crow qui est sorti au début des années 90, où là il y avait que des groupes de métal quasiment ou assimilés. Il y a eu Airheads aussi, je crois, qui était une espèce de film un peu débile sur des animateurs de radio. Ça vous dit rien?
Airheads.
Sur nous, non?
Moi, je me rappelle de Wayne's World.
Il y a eu Wayne's World aussi, mais Airheads, c'était, je crois que la bande originale était composée essentiellement de groupes de hard rock, métal américain. Voilà. Donc, c'est sûr, mais ça, c'est commercial. Hein. Ouais. C'est un argument commercial, ça c'est vendeur.
Oui, Jus.
Oui, il y a une question intéressante, on parlait de Kiss. Donc il y a une question de Goonuman.
Alors Kiss n'est pas un groupe de métal. Autre question.
Mais attention, c'est pas gentil.
Je plaisante.
C'est un groupe de hard rock. Hein.
Je plaisante.
Attention, Kiss est un groupe qui avait une imagerie très développée en avant sur leur temps. Et il était considéré comme des références par un tas de musiciens de Madonna à Immortal. Nicolas, qu'en pensez-vous?
Je vois pas à quel niveau Madonna a pu être influencée par Kiss, mais j'ai pas étudié Madonna, je le précise. Alors oui, je pense qu'il veut parler des maquillages, hein,
oui, par exemple.
Ouais, oui.
Alors, ces peintures, effectivement, on les trouve dans le black metal. Elles sont quand même un peu différentes de chez Kiss. Il faut voir que Kiss n'a pas non plus inventé. On les trouvait aussi chez un autre groupe qui s'appelait les Misfits.
Oui. Avec Glenn Danzig.
Qui était antérieur à Kiss. En fait, j'ai eu du mal, beaucoup de mal à trouver, à situer l'origine de ces maquillages. Bon, on a du mal, les historiens ne se sont évidemment pas appesantis sur la question. Il semblerait, mais alors c'est au conditionnel, que ce soit les chevaliers teutoniques au Moyen-Âge, enfin fin du Moyen-Âge, qui se maquillaient le visage pour aller au combat en fait, et représenter la mort sur leur visage, donc pour faire peur à leurs adversaires. Ouais. Donc c'est, évidemment, ces maquillages sont censés représenter la mort, ce qui ne semble pas être le cas chez Kiss. Chez Kiss, ça fait plus appel, on va dire,
un imaginaire. Un homme de l'espace.
Peut-être, voilà, c'est plus un imaginaire de comics, je dirais, ou de bande dessinée chez Kiss. Ouais. Alors que dans le black metal, c'est effectivement l'idée, c'est de représenter la mort sur le face des musiciens. On représente la mort pourquoi? Pour l'exorciser, je pense, d'une part. D'autre part, pour créer aussi une façade, sans doute une séparation entre l'artiste qui est caché en fait, et le public. Et sans doute qu'on peut trouver dans cette, dans ce maquillage une. Alors après, on va peut-être rentrer dans les considérations psychologiques, ce qui est pas mon domaine, mais peut-être une volonté, ouais, pour les, pour les artistes de se cacher, de se protéger, peut-être aussi de cacher une forme de timidité, parce que rappelons que ces groupes essentiellement venaient du Nord, les pays du Nord en général. Bon, on sait que les habitants des pays du Nord sont moins exubérants qu'ils peuvent l'être en Italie ou en Espagne. Donc c'est vrai qu'il y a ce processus finalement de nier sa personnalité, de la cacher, et aussi de représenter la mort, de donner une image à la mort, ce qui a longtemps été interdit dans l'art en fait. Ça a été très longtemps interdit dans l'art. Pendant longtemps, on ne représentait pas la mort, et aussi dans la représentation de la façon dont on voyait le mort, on cachait le visage du mort en fait dans les sociétés occidentales jusqu'au XVIIe siècle. Là, on cache le visage du mort, on le recouvre d'un linge. Et en fait, le black metal finalement dit stop, montrons la mort. La mort existe et on va la montrer en la faisant vivre. Voilà, on donne vie à la mort, et on le fait pendant les concerts, on le fait sur les pochettes de disques, etc.
Ouais. J'aimerais savoir si tu t'es un peu intéressé à un groupe comme Bathory, puisqu'on parle de black metal,
ouais.
Qui est un groupe vraiment un des pères fondateurs du genre. On n'a pas parlé de Venom, mais c'est encore autre chose. Mais pour toute la scène scandinave, Bathory et Corson notamment fait partie de, enfin certainement le référent majeur.
Alors Bathory, je crois qu'on se divise en deux périodes. Il y a une période effectivement black metal, voilà, les premiers albums où on a à peu près tout le petit manuel du petit sataniste de foire, on va dire, hein, avec Illy with Satan, des pentacles en veux-tu en voilà, des représentations de tête de bouc, hein, l'un des symboles, l'une des représentations médiévales du malin. Et ensuite la deuxième période effectivement c'est après les trois albums, là on rentre dans le Viking Metal, ce qu'on appelle le Viking Metal, c'est-à-dire qu'on va reprendre des caractères issus de la culture viking. Attention, la musique qu'ils font n'a rien à voir avec la musique viking. Les vikings, pour ce qu'on en sait, c'était quelques percussions, des chants et c'est tout. Mais c'est plus dans la représentation, dans l'imaginaire. Donc effectivement, on reproduit des scènes mythologiques, on reproduit les divinités, Thor, Odin, chevauchant leur cheval et se battant contre les titans, etc. Donc il y a deux périodes, mais effectivement, Bathory, c'est vraiment c'est le fondateur, à la fois, je dirais, du black metal et du pagan metal.
Ouais.
Donc c'est un groupe vraiment important, et même si musicalement, il n'a pas forcément marqué les autres artistes, je pense qu'au niveau de l'imaginaire et au niveau de l'impact médiatique, ça reste sans doute bien plus que Venom, qui lui doit être considéré plus comme un phénomène commercial. Ouais. Venom effectivement diffusait aussi beaucoup d'imaginaire pseudo-satanisme.
Il y a un côté un petit peu imposteur chez Venom.
Oui, puis ils l'ont reconnu. Ils ont dit que l'objectif c'était de faire du pognon. C'était gagner de l'argent, et qu'ils trouvaient ça sympa de mettre des images de Satan, mais qu'ils n'étaient pas plus satanistes que le boulanger du coin. Donc, ouais. C'est plus une imposture.
Ouais. Bien. Dans un instant, tout à l'heure, on écoutera l'exclusivité de la soirée. Hein. Ouais. Tu nous en parles un petit peu de cette exclusivité de Fairyland.
Et oui, c'est une exclusivité du futur album, du troisième album de Fairyland, qui sortira en 2009. On ne sait pas encore exactement quand. Sous le nom de Score to a New Beginning. Et là, on aura droit à une chanson vraiment mixée il y a peu de temps.
Ouais, toute fraîche.
Pratiquement terminée. Normalement, c'est la version quasi finale. Il y aura peut-être des retouches. Chantée par Marco Sanrol, le chanteur de Pathos Rey. En tout cas, ça envoie bien. C'est du vrai métal symphonique, avec une voix beaucoup plus heavy que sur les précédents albums.
Yes.
Et ça va donner. Donc,
Et donc, on remercie Phil Giordana qui nous a filé cette exclu.
C'est une exclu ultra.
Et qui est là depuis la rentrée chaque semaine sur le chat de La Houssagrate. Et ça nous fait très, très
c'est
plaisir.
C'est un vrai forcément. Fidèle. Non seulement il est sur le chat, et il participe en plus.
Et évidemment, il nous envoie des exclus. Alors, franchement, comme monde de peuple. Je vous le demande.
D'ailleurs, le titre, ça sera Godsend, envoyé de Dieu.
On en parle tout à l'heure, mais pour l'instant, on va terminer avec un dernier set consacré au hard rock. Et c'est la deuxième phase du mélange des genres dans le hard rock. On a évoqué tout à l'heure le folk, on a évoqué le symphonique, on a évoqué le funk. Et là, on va évoquer le rap, l'électro et l'ethnique. Pour le rap, Rage Against the Machine, on en parlait tout à l'heure. Qui dit rap dit également engagement politique. Ça, c'est ça va vraiment de pair. On écoutera un extrait du premier album de Rage Against the Machine, sorti en 92. C'est Know Your Enemy. Avec un moment, cet album est une tuerie. On peut rien dire d'autre. Et pourtant, moi, quand c'est sorti, j'étais assez réfractaire. Et je les ai vus en live. Et là, j'ai pris la claque de ma vie. Et j'ai réécouté l'album du coup. Et je l'ai réécouté à fond pendant des mois et des mois et des mois. Et j'écoutais que ça.
Juste une petite précision, c'est la version démo du Fairyland.
Ah oui, j'imagine bien, puisque l'album n'est pas sorti.
Voilà, non, c'est pour ça.
Juste après, l'électro avec un groupe qui a vraiment popularisé l'électro dans le métal, c'est Fear Factory. Avec Burton Sibel, Dino Casares à l'époque. Là, on va écouter un remix, le Pick Fuck Mix de Scapegoat. C'est extrait un EP de 6 titres qui est sorti en 93 qui s'appelait Fear is the Mind Killer. Vous allez voir, ça envoie méchamment et déjà il y a tout est là quoi, il n'y a pas de problème. Et puis bah, on va repartir avec le côté ethnique. On a parlé de Sepultura tout à l'heure avec l'album Roots, dernier album d'ailleurs avec le père Cavalera au chant.
Ouais. C'est avec, et à la guitare aussi hein.
Et oui,
il paraît, sûr. Il paraît. La guitare trois cordes.
La guitare trois cordes. Mais c'est vrai qu'il est parti en pleine apogée du groupe, hein, parce qu'avec ce route, ils ont vraiment tout cartonné.
Tout cartonné, ouais.
Donc on va écouter Attitude. Là, on entend, il y a des didgeridoos, il y a plein de choses.
Alors là, bouchez-vous les oreilles, hein, si vous aimez pas le métal qui réveille.
Ça envoie un petit peu, on va dire. Allez, c'est Sepultura, il est 22h15, on a bien débordé, mais pas tant que ça finalement. On a réussi à bien cadrer, et puis on se retrouve juste après pour dire au revoir à notre invité Nicolas Bénard, et puis pour découvrir cette exclusivité de Fairyland. C'est parti. Quand l'électro devient violent, il s'acoquine. Oh, du métal, bien sûr. C'était Fear Factory avec Scapegoat Pig Fuck Mix, extrait donc d'un album de remix, enfin plutôt d'un EP 6 titres de remix sorti en 93 qui s'appelait Fear is a Mind Killer. Juste avant, Rage Against the Machine avec Know Your Enemy, extrait de l'album Rage Against the Machine sorti en 1992, et puis Sepultura avec un extrait du mythique. Alors, c'est un album cultissime finalement, Woods. Hein.
Ouais, bah c'est l'album préféré, qui a un peu aussi séparé les fans, je pense, ouais, quelque part, avec l'introduction de la venue d'un rappeur, des éléments un peu ethniques, un peu tribaux qui existaient un petit peu sur l'album précédent, mais là qui était quand même beaucoup plus marqué. Et bon, bah c'est vrai que ça l'album a très très bien marché, c'est sans doute l'album qui a le mieux marché, mais il a peut-être contribué au déclin du groupe.
Ah, c'est surtout le départ de Max Cavalera qui
a... ça a contribué au départ de Max Cavalera qui a contribué au déclin du groupe.
Donc ça, ce route s'est sorti en 1996, très exactement. Avant qu'on se dise au revoir Nicolas et CDX qui nous parlaient de ça un peu hors antenne, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la rock attitude dans le hard rock. Alors...
Ah, il y a une rock attitude évidemment, il y a des groupes, on en parlait tout à l'heure en antenne, un groupe comme Motorhead par exemple, qui a toujours fait très attention à dire qu'il ne jouait pas du heavy metal mais du rock'n'roll, et à chaque fois que Motorhead arrive sur scène c'est « We are Motorhead and we play rock'n'roll », et ils le disent toujours, hein, ça fait 35 ans qu'ils le disent et ils le diront toujours, et pourtant Motorhead joue en tête d'affiche des plus grands festivals metal européens, ils ont joué au Wacken il y a 2-3 ans je crois, et ils jouent aussi dans des festivals qui n'ont rien à voir avec le metal. Donc oui, il y a une rock attitude aussi dans toute la scène américaine, hard rock fin 80 début 90, hein, Guns N' Roses, Motley Crue, on parlait de Kiss aussi tout à l'heure. Évidemment, mais ça c'est un aspect du hard rock, on va dire plus mainstream, plus commercial et en même temps plus vendeur. C'est les groupes les plus vendeurs qui ont cette rock and roll attitude avec des textes qui sont au diapason de ce phénomène. Hein.
Ça, c'est peut-être ça qui parle aussi beaucoup aux fans.
Oui, parce que c'est il y a un côté peut-être plus festif aussi. Ces groupes ont réussi peut-être à attirer un plus large public en ayant des textes moins ciblés imaginaires traditionnels.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ils parlaient pas de dragons, ils parlaient pas de fjords norvégiens ou de forêts finlandaises ou de trolls islandais ou je ne sais quoi encore.
Carrément. Mon jus, on va dire au revoir au tchateur et peut-être faire part des dernières réactions.
Bah, les dernières réactions, à part que Edge Crusher a découvert le remix de Fear
Factory. Ça me fait plaisir, parce que lui est un fan de Fear Factory devant
l'éternel.
Pourtant,
Edge Crusher, c'est un titre de Fear Factory, ça.
C'est un fan, quoi. Je suis très content. Je te filerai le EP, Edge, y'a pas de problème.
Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste sur le chat? Il reste encore quelques gens. Il y a Iscaria, Bonobo, Daddy Pablo.
Ça, qu'on retrouvera jeudi.
Edge Crusher, donc, Floria, Golder HL, Golem, Magmamat, Mario, 11e dièse.
Salut mec.
Phil Giordana qui trépigne et Sand.
Ça va en faire des livres vendus. Hein.
donc on peut le trouver n'importe où. Hein.
Oui, normalement dans tous les bons libraires, hein, comme on dit, notamment les chaînes. Alors après, effectivement,
Fnac,
Virgin sur Internet. Maintenant, si votre libraire il est pas très calé, vous pouvez toujours aller lui tirer les oreilles pour lui dire qu'il le commande. Mais normalement, on le trouve à peu près partout.
Il y a un code ISBN, ça. Oui,
il y a
un code ISBN.
Ah oui, l'International Standard Book Number, bien sûr. C'est distribué par les Belles Lettres, qui est un des plus gros distributeurs. On le trouve même normalement en Belgique, Suisse aussi.
Et donc, si votre libraire est de mauvaise foi et de mauvaise volonté, vous chopez le numéro ISBN, vous lui dites c'est ce numéro-là, vous pouvez que le trouver avec ça.
Oui, il n'y a pas de problème normalement. Il n'y a pas de problème.
Nicolas, un grand merci à toi d'être venu nous rendre visite ce soir et de nous avoir éclairé sur cette culture du hard rock.
Ouais, merci de m'avoir invité. J'espère que ça vous donnera envie de le lire. Et puis, il y a ceux qui ne connaissent pas forcément cette culture, ça leur donnera envie de se plonger un peu plus. On peut ne pas apprécier toute la musique, c'est vrai, mais je pense qu'on peut y trouver des émotions. La culture métal est tellement diverse qu'il y en a pour tous les goûts, je dirais.
On y trouve forcément son compte quelque part.
Je pense, oui.
Grand merci à toi, mon Fanou. Merci d'être venu.
De rien.
Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission?
Très bonne émission, ouais.
C'est sympatoche, hein.
Ouais.
J'ai bien aimé moi aussi. On a tellement débordé qu'on a débordé de 35 minutes, pas t'imagines.
Je vais me faire gronder.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un sujet tellement vaste que c'était pas évident de synthétiser les informations comme ça.
Et c'est vrai qu'on a encore coupé, on aurait pu encore faire une heure de plus, il n'y avait aucun souci.
Je reviendrai si vous voulez.
Avec un client comme Nicolas, il n'y a aucun problème. On va repartir dans un instant sur le gros mix métal et puis avec cette exclusivité du dernier Fairyland. Mais d'abord, je vous donne le détail de ce qu'on va écouter jusqu'à minuit. Vous aurez droit, alors attention, je remonte mon petit curseur pour vous dire, il y aura du Neverland, il y aura du Saxon. C'est vraiment tout azimut. Il y aura du Edu Falaci, il y aura du The Last Embrace, il y aura du Sorum, il y aura du Royal Bubble Orchestra, j'adore. Il y aura du Sensor, il y aura du In Flames, il y aura du Machine Man, il y aura du Jadalis qui seront invités la semaine prochaine, il y aura du Vinona, il y aura du Vanishing Point, il y aura du Eleven's Plague, il y aura du Pantera, il y aura du Inlempus Mons, et puis ce sera à peu près tout. Voilà mon jus, et maintenant je te laisse conclure et annoncer le titre qu'on va écouter pour partir sur ce gros mix métal.
Nous allons écouter une excuse du futur album de Fairyland, même pas le dernier, le futur. La version démo du titre Godsent qui apparaîtra donc sur l'album Score to a New Beginning qui sortira en 2009. Donc amis du métal symphonique filmique, c'est le moment. Fairyland, c'est français. Et c'est en exclu sur la grosse radio, dans la Houssagrate.
Et dans la Houssagrate. Et grand merci à Phil.
Et gros merci à Phil Giordana.
On se donne rendez-vous avec Elix, qui sera là aussi jeudi soir, avec Daddy Chaved, Ras Pablo et ses invités pour le Damage Dread System. Le reggae est à l'honneur un jeudi par mois. Et peut-être bientôt, et nous l'espérons tous, deux fois par mois. En tout cas, on vous tiendra au courant, il n'y a pas de souci. Et on part avec donc Fairyland. Salut Nicolas, salut SM, salut Elix, salut Ju.
Ciao.
Et
ciao.
Salut. La semaine prochaine, rendez-vous avec Jadalis. Ne manquez pas. Ah, il a pas voulu partir. Bah alors, cochon. C'est parti.